Bon, allez, on va commencer. Ça fera venir les autres. Bon, alors aujourd'hui, ce n'est pas un sujet totalement conventionnel. Je vais essayer en fait de vous présenter un certain nombre de réflexions qui portent en fait sur les relations entre. En fait, il manque encore un troisième terme dans cette affaire, après infrastructure, expérience urbaine, et qui serait subjectivité. En fait, c'est un cours que j'ai testé il y a un an avec des poussières aux États-Unis. Puis je me suis dit, tiens, parce que d'habitude, je faisais un cours que je trouvais un peu barbant sur l'architecture numérique. Cette année, vous allez avoir Soline Nivet qui va vous faire un truc nettement plus intéressant sur le système Niel à Paris. La Alfraissinet, l'école, etc. Donc, ça sera, je pense, plus intéressant. En fait, c'est un cours qui va, du coup, j'ai décidé d'introduire ça ici, donc bon, je vais voir comment ça marche. C'est un cours qui porte en fait sur donc les rapports entre la technologie, enfin et les infrastructures, donc la question de l'expérience urbaine, je vais essayer de m'expliquer là-dessus, et puis la construction de la subjectivité, qui est un thème sur lequel j'ai beaucoup sévi autrefois, je vais y revenir. Donc, en quoi finalement les infrastructures, la technique, les infrastructures, ça permet de dire quelque chose sur la nature de l'expérience des villes que nous avons, et puis aussi sur le type de finalement d'habitants des villes que nous sommes, et les transformations finalement des habitants des villes en liaison, en relation avec l'évolution technologique. Alors, je vous préviens, bon, ça sera un peu moins rodé que, parce que c'est jamais que la deuxième fois que je fais ce cours. En plus, le faire à partir de notes en anglais est un petit peu sportif, des fois. Mais ça va me permettre aussi quand même d'introduire un certain nombre de choses par rapport à l'histoire du numérique. C'est aussi un début du jeu. Je vais parler de l'électricité, ensuite du numérique. Ça va être les deux technologies que je vais prendre. Et ça permet de commencer à débroussailler par rapport à notamment aux questions de ville intelligente dont on parlera la semaine prochaine. Donc c'est ça un peu le but du jeu. J'ai passé quand même les 15 dernières années à étudier pas mal la révolution numérique et son impact sur les villes et l'architecture. Donc c'est en fait lié à ces recherches-là. Alors, première chose à dire, bon, ben, l'infrastructure, elle fait partie absolument intégrante de l'expérience urbaine. Pensons par exemple, et c'est alors sans ironie aucune, parce qu'en fait les slides datent d'avant la grève, mais pensons au rôle des transports, évidemment, dans l'expérience qu'on a concrète des villes jour après jour. Alors à noter une chose, la plupart du temps, regardez tous les gens qui sont sur leur smartphone, l'expérience de l'infrastructure, elle est un peu distraite. Quand ça marche, finalement, on prête pas beaucoup attention aux infrastructures. Évidemment, quand ça marche moins bien, et encore une fois, je n'ai pas choisi cette slide par rapport à l'actualité, mais quand ça marche moins bien, tout d'un coup, on se rappelle à quel point les infrastructures, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans l'expérience de la ville. En fait, l'infrastructure, et un philosophe, Walter Benjamin, écrivait autrefois que l'architecture, on l'aperçoit la plupart du temps dans un état de distraction. C'est vrai que quand vous marchez dans les rues, vous ne prêtez pas, sauf à être architecte ou historien de l'architecture, attention à chacun des détails des bâtiments. L'infrastructure, c'est un peu pareil. La plupart du temps, on l'aperçoit de façon un peu distraite. Les infrastructures, bon, du coup, encadrent finalement, guident un peu l'expérience de la ville d'une façon, donc encore une fois, assez distraite. Alors, cela dit, il peut y avoir des fois des choses un peu plus déviantes. J'aime bien cette image-là. Il y a une espèce de plaisir, des fois, à faire des choses un peu inusuelles dans les infrastructures. C'est le plaisir provient d'ailleurs de l'espèce de contraste qui s'accuse à ce moment-là entre le fait d'être déguisé en Batman ou Spider-Man. Vous noterez ma connaissance des films Marvel. Et puis le passager habituel qui se rend à Marne-la-Vallée avec l'enthousiasme qu'on lui connaît vers 7h30 du matin le vendredi. Alors, une chose à dire d'ailleurs, c'est qu'il y a un rapport quand même étroit entre infrastructure et cinéma. Je ne sais pas si vous avez noté, en général, dans les films de Superman ou de Batman, il y a toujours un moment où le métro new-yorkais va basculer dans le vide et le super-héros sauve la rame avec les passagers effrayés dedans. Donc, il y a tout un lien entre infrastructures et ces espèces d'événements. Alors, l'une des raisons de cette distraction, c'est quelque chose que j'avais déjà un peu mentionné, c'est que les infrastructures, elles ont une espèce de côté extra-spatial, c'est-à-dire on les pense pas comme des espaces habituels. Par exemple, la voie ferroviaire, c'est pas un endroit sur lequel on a vocation à se balader, c'est pas un endroit qu'on invite. Ça fait partie un peu de ce que Marc Auger appelait autrefois les non-lieux. Alors, je vais en fait parler de deux types d'infrastructures qui sont tout de même un peu différents dans la mesure où on leur a toujours prêté beaucoup d'attention. Il y a une énorme littérature à leur sujet, et c'est quelque chose dont on est conscient dans la vie quotidienne, qui sont en fait l'électricité et le numérique. Je dirais, en commençant par l'électricité, parce que je dirais l'électricité, c'est peut-être une des technologies, c'est quand même encore aujourd'hui la technologie qui domine notre monde quotidien. C'est-à-dire que très grosso modo, on peut vivre, ça paraît difficile, mais même si votre téléphone est déchargé, et que, etc., même si il n'y a pas de réseau, etc., on peut arriver à vivre quelques heures. Sans électricité, c'est beaucoup plus compliqué. Comme je le dis souvent, dans les films de zombies, ça commence vraiment à se gâter lorsque l'électricité disparaît. Donc l'électricité, c'est vraiment la base des sociétés et des villes dans lesquelles nous évoluons. Puis je vais vous parler ensuite du numérique, avec quand même dans l'idée que, en fait, c'est une chose auquel je réfléchis depuis déjà assez longtemps, en fait, le numérique, c'est dans une large mesure l'enfant de l'électricité. Et il s'en est pas encore complètement émancipé. Du coup, il y a une espèce quand même de lien logique entre les deux. Donc je vais y revenir, qui est aussi un lien historique, parce qu'en fait, beaucoup d'aspects qu'on attribue aujourd'hui à la société numérique, en fait, se développent déjà à l'époque où l'électricité se répand dans la société. Alors, les deux technologies, elles ont des caractéristiques en commun. La première, c'est qu'à la différence, par exemple, de la machine à vapeur, c'est une technologie tout à fait essentielle à la première révolution industrielle, etc., mais elle n'avait pas envahi le quotidien des humains. C'est-à-dire, vous ne trouviez pas, a priori, de machine à vapeur dans votre salon ou dans votre cuisine. L'électricité, c'est, on peut dire, une des premières technologies avancées qui envahit à peu près tous les secteurs de la vie, et notamment l'espace domestique. Et c'est vrai aussi aujourd'hui du numérique. Du coup, un aspect tout à fait important, c'est que c'est des technologies qui sont inséparables de récits sur la vie que nous vivons, et c'est d'où cette idée d'expérience et de subjectivité, c'est-à-dire l'électricité ou le numérique, c'est inséparable d'une floraison de narrations concernant qu'est-ce que c'est que vivre à l'heure de l'électricité, qu'est-ce que c'est que vivre à l'heure du téléphone portable. C'est extrêmement foisonnant, avec aussi beaucoup d'aspects fictionnels. Ça c'était juste for the pleasure, pour illustrer aussi les non-lieux. J'avais trouvé celle-là, vous savez, en Amérique, les clowns, tout ça, c'est absolument effrayant. Donc celle-là est absolument fascinante, mais c'est pas... je passe là-dessus aussi, parce que... Ça, c'était, par exemple, Robida, au début du XXe siècle, imagine la vie électrique. Avec ça, c'est la sortie de l'opéra par Robida, avec tout le monde dans des véhicules volants. Ça annonce Luc Besson. Vous noterez d'ailleurs que Luc Besson, dans le cinquième élément, il a rien inventé, parce que, en fait, ces idées de véhicules volants, ça naît, en fait, avec la révolution électrique. Il y a plein de gens qui imaginent, au tournant du XIXe et du XXe siècle, des véhicules volants. Alors, et ça, jusqu'au numérique. Du coup, d'ailleurs, ce qu'on appelle la science-fiction moderne, elle naît en fait sous les espèces de ce qu'on appelle à l'époque le récit d'anticipation avec l'électricité. Grosso modo, Jules Verne, tout ça, d'ailleurs, on lit plus beaucoup Jules Verne dans vos générations, mais Jules Verne, la technologie de l'avenir, c'est l'électricité. Et de la même façon, aujourd'hui, la technologie de l'avenir, c'est un mélange en général de numérique et de biotechnologie. Et ça, depuis Blade Runner, c'est relativement stable comme type de cocktail. Alors ça a un lien avec une autre chose qui m'a toujours frappé, c'est, je parlais d'anticipation, de science-fiction, etc., c'est le caractère parfois autoréalisateur de ces technologies. C'est-à-dire, c'est des technologies qui sont liées à la façon dont nous vivons et qui sont liées, du coup, à nos désirs. Et je dirais, ça, c'est un aspect extrêmement profond, c'est-à-dire que c'est des technologies, il est rare, si vous voulez, que les technologies, la machine à vapeur n'était pas un objet de désir, le téléphone portable, mais l'électricité, d'une certaine façon, cristallisait des désirs de confort, des désirs de vie différente, etc. Du coup, ça génère des récits, mais ça génère aussi des effets d'autoréalisation, c'est-à-dire qu'en fait, les choses deviennent comme elles sont à force d'en rêver. Prenez par exemple les écrans tactiles, c'est un truc dont rêve par exemple la Silicon Valley une quinzaine d'années avant qu'on en commence à en trouver sur les téléphones portables. Et on se rend compte qu'en fait, et on les trouve d'abord, les écrans tactiles d'ailleurs, dans un film d'anticipation, Minority Report, vous avez pour la première fois, vous savez, Tom Cruise qui manipule des écrans tactiles, et ensuite, quelques années plus tard, ça tombe sur le téléphone. Et là, vous avez un espèce de cocktail de désirs, de gens qui, parce qu'il y a ces désirs, c'est dans l'air, etc., commencent à développer des technologies. Et si ça se retrouve dans Minority Report, c'est parce qu'à l'époque, Spielberg, en fait, va contact les gens de la Silicon Valley pour savoir qu'est-ce qui est dans les tuyaux et le mettre dans son film. Alors, bon, l'électricité, donc, encore une fois, c'est à ce côté très, très domestique, mais du coup, ça a des rapports assez étroits avec qui nous sommes. L'électricité, par exemple, c'est inséparable de la montée en puissance d'une nouvelle vision de la femme, dans laquelle la femme cesse d'être cette espèce de bête de somme qui, à longueur de journée, trime dans sa cuisine. Du coup, d'ailleurs, on va lui vendre des cuisines modernes, etc. Et c'est tout le départ, finalement, d'un nouveau rapport au consumérisme, à l'habitation, etc. Alors, ça, du coup, pose la question aussi de l'intérieur. Et ça, en fait, ce qui est assez intéressant dans ces technologies, c'est qu'elles parlent à la fois de la ville et puis elles vous parlent de l'intérieur de l'habitation. Là aussi, si vous repensez, il y en a qui se souviennent du cinquième élément ou de Blade Runner, ça va ? Bon, si vous pensez à Blade Runner, le cinquième élément, etc., en général, la description de la ville, elle va de pair aussi avec, à un moment, le héros rentre dans son domicile, qui est aussi plein de gadgets et il y a des liens entre les deux, si vous voulez. Et le lien, c'est en fait qui sommes-nous à l'ère de ces technologies, etc. Ça commence déjà avec l'électricité et ça va continuer jusqu'à aujourd'hui. De façon d'ailleurs assez intéressante, les smart homes, avant l'habitat intelligent dont on rêve aujourd'hui, vous avez l'habitat électrique intelligent, ça c'est le push button manor, le manoir pousse-bouton, qui est en fait, dans les années 40-50, une proposition par un ingénieur électricien américain de domotique avant la lettre. D'ailleurs, en parlant de la femme, ce qui est assez drôle, c'est que la maison intelligente, c'est un fantasme de mec, principalement, lié à une espèce de bizarre relation. Dans l'article de ce journal, il y a la femme de l'ingénieur qui dit « Oui, je me demande si au fond, il cherche pas à me remplacer ». C'est un thème récurrent de la domotique. En tout cas, ça nous mène, question de l'intérieur, le numérique est inséparable de cette question, qu'est-ce que c'est que l'intérieur aujourd'hui, avec aussi cette autre chose sur laquelle je reviendrai, c'est que l'électricité comme le numérique, en général, ont tendance à refermer l'intérieur et à ouvrir des espèces de bizarres fenêtres sur l'extérieur via des écrans, des choses comme ça. Je vais y revenir dans un instant. Et puis, ça va jusqu'à la maison intelligente. Donc, encore une fois, j'ai pas mis subjectivité dans le titre parce que, ou construction du sujet parce que ça commençait à faire un titre vraiment trop barbare. Mais, en fait, il va aussi s'agir de ça aujourd'hui. Donc, technologie, ville, expérience de la ville et construction du sujet, entre guillemets, moderne. Avec l'idée, finalement, l'expérience, c'est quand même quelque chose qui est fortement sensoriel, donc on va aussi un peu parler de ça, mais aussi qui a une relation, je vais y revenir, avec plus généralement la perception de l'espace et du temps. Et comme par hasard, l'électricité et le numérique ont à voir avec cette question très générale de la perception de l'espace et du temps. Ça commence pour l'électricité bien avant la révolution électrique proprement dite, c'est-à-dire dès l'époque du télégraphe, en 1850, vous avez un journaliste à Washington, Morse, fait une exposition autour de son télégraphe à Washington, vous avez un journaliste qui écrit « L'espace a disparu ». Et on retrouve exactement le même discours au moment de l'Internet. C'est-à-dire espèce d'idée que l'espace a été annihilé. En fait, l'espace n'a pas été annihilé, mais il a été profondément redéfini. Alors, on va commencer par l'électricité, que je vais caractériser un peu avec l'idée entre désenchantement et réenchantement. Je vais essayer de m'expliquer là-dessus. L'électricité, ça a une histoire intéressante. Pendant longtemps, j'ai fait un cours ici qui s'appelait « Histoire des ingénieurs et des techniques » où j'avais une séance entière sur l'électricité, c'était le grand pied, mais on va en garder que quelques éléments. Première chose quand même dont il faut se souvenir, l'électricité jusqu'au début du 19e siècle quasiment, ça reste une curiosité pour une raison simple, c'est qu'on ne connaît que de l'électricité de décharge électrique. On n'a pas les moyens de stocker l'électricité et de générer du courant en continu. Du coup, les gens s'amusent au XVIIIe siècle à faire des expériences d'électricité avec des. On s'amuse par exemple à se donner des chocs électriques, etc. C'est plutôt des trucs de salon. Ça, c'est tiré en fait d'un traité de physique de la Bénolet. C'est le frontispice du traité d'électricité de la Bénolet. On s'amuse à électrifier, on frotte des baguettes et on électrifie des petits bouts de papier ou de tissu, etc., etc. Et puis au XIXe siècle, première grande révolution, les batteries font leur apparition, les piles. Et du coup, on commence à découvrir de nouvelles choses. Parmi les choses qu'on découvre, on va découvrir l'éclairage. Ça, c'est une expérience au tout début du XIXe siècle d'un physicien anglais, Davy, avec ce qu'on appelle l'œuf de Davy, qui est le premier essai d'éclairage électrique. Très grosso modo, c'est une lampe de décharge entre deux électrodes. Donc, vous avez une décharge, etc. Comme vous pouvez voir, en dessous, c'est assez impressionnant pour éclairer pendant quelques minutes une salle comme celle de l'Académie des sciences anglaises. Donc, on n'est pas encore dans une miniaturisation des technologies, mais quelque chose est enclenché. Vers la même époque aussi, et ça regarde aussi la préhistoire de l'information, on va découvrir, comme on a du courant, qu'en fait, le courant fait dévier l'aiguille magnétique. Et que du coup, on peut utiliser l'électricité pour transmettre des signaux, et ce sera la base, en fait, des idées de télégraphie, etc., et la base des télécommunications modernes. Et tout ça, c'est les années 1815, 1830, etc. Ça va mettre du temps à se développer, mais ça va se développer. Alors, pendant longtemps, ça reste limité par les technologies, c'est-à-dire, par exemple, l'éclairage, c'est de l'éclairage, on met toutes les lampes en série, comme les anciennes guirlandes d'arbres de Noël. Donc, vous imaginez, quand il y a une lampe qui claque, tout est plongé dans le noir, donc c'est juste un éclairage d'appoint, en général, l'électricité. Et d'autre part, c'est des lampes, encore une fois, avec une décharge électrique entre deux bâtonnets de carbone. Donc, du coup, ça dure pas très longtemps. Ça, vous avez l'hôtel, le salon mauresque de l'hôtel intercontinental, éclairé à la lumière électrique. C'est ce qu'on appelle les Jean-Lampes Jablokov dans les années 1860. Alors, la grande révolution, ça va être Edison, des années 1880, avec plusieurs choses. Un, la lampe à incandescente, beaucoup plus durable. Du coup, on va pouvoir... Deux, le montage en parallèle, ce qui fait que lorsqu'une lampe claque, ben on la change, mais tout le reste n'est pas plongé dans l'obscurité. Mais le montage en parallèle, ça oblige à une chose, c'est à raisonner en termes de voltage. Et du coup, il faut maintenir la tension dans le système. Du coup, toute une série de problèmes de régulation, de ce que je ne vais pas rentrer. Mais en tout cas, les années 1880, c'est le grand démarrage de l'électricité telle qu'on peut la connaître aujourd'hui. Alors, avec tout début des années 1880, je crois que je vous l'avais mentionné, les premiers réseaux d'éclairage électrique urbain au monde, à Pearl Street, dans le sud de Manhattan. Vous voyez, en fait, ici, le quartier qui est éclairé. Comme vous pouvez voir, c'est pas encore grand-chose. Et en général, on a une lampe en maximum par pièce. Mais vraiment, c'est le grand maximum. Mais quelque chose s'enclenche et ensuite, ça va aller très vite. C'est-à-dire qu'en 20-30 ans, l'électricité va conquérir le monde un peu partout. Ici, c'est en 1881, la première exposition internationale d'électricité à Paris. Et Edison, évidemment, fait partie des héros. Et l'électricité va progressivement envahir les villes. Alors là aussi, avec des retards, ça va commencer plutôt en Amérique, c'est une histoire américaine au départ, ensuite allemande, c'est-à-dire qu'en fait Edison, par exemple, va en fait franchiser un certain nombre de ses brevets, notamment en Allemagne, etc., et puis un peu partout dans le monde. Ici, par exemple, c'est Broadway, mais le Broadway de Los Angeles éclairé à la lumière électrique, c'est plus du gaz. Et du coup, les gens s'émerveillent de cette nouvelle lumière, etc. New York, ici, c'est une vue de New York en regardant vers l'East River. Et l'Amérique va devenir finalement le pays de ces villes éclairées à l'électricité qui font rêver, etc. Et du coup, d'ailleurs, ça va aller, il y a une espèce de crudité de la lumière électrique, ça va aller avec une espèce de forme de désenchantement, comme si le mystère du monde reculait. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce peintre, Edward Hopper, mais Hopper peint fréquemment cette espèce d'Amérique un peu désabusée, désenchantée, cette Amérique de la solitude dans la lumière électrique qui illustre assez bien ce tableau du début du XXe siècle. Comme si finalement quelque chose reculait dans lequel il y avait du mystère, etc. Ça se traduit d'ailleurs, ça correspond à peu près au moment où on va abandonner la façon d'habiter du 19e, je parlais de l'intérieur, ça va avoir un impact sur les intérieurs. On va passer de ces intérieurs bourrés de bibelots, très richement ornés, etc., de la fin du 19e siècle. Ça, c'est un intérieur grand bourgeois de la fin du 19e siècle. Et ça, c'est ce que va proposer 20 ans plus tard Le Corbusier à la maison à La Roche. Monsieur La Roche est quelqu'un qui aurait pu se payer tout à fait, c'est un banquier suisse, il aurait pu se payer cet intérieur-là. Dans les années 20, il choisit plutôt ça. Donc un intérieur dépouillé, un intérieur moderne. Et évidemment, ça a des liens avec cette espèce d'effet, comme si finalement, ici, vous pouvez encore imaginer des fantômes qui rôdent, etc. Là, il y a une espèce de nudité presque clinique de l'habitation. Et la modernité va beaucoup... En fait, la modernité architecturale, Le Corbusier, Mies van der Rohe, les grands architectes, c'est inséparable, leur conception de l'espace, de la montée en puissance de l'électricité. Donc désenchantement, mais j'ai dit aussi réenchantement, parce que l'électricité, évidemment, ça fait rêver en même temps. Et ça va faire beaucoup rêver, ne serait-ce qu'à cause des grandes illuminations urbaines. On oublie par exemple la tour Eiffel, elle est de 1889. La tour Eiffel, dès le départ, elle est conçue pour être illuminée à l'électricité. Et les illuminations font partie intégrante, en fait, du projet du monument. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. L'illumination de la tour Eiffel, on la change tous les 20 ans à peu près. C'est toujours un événement urbain important. Les expositions universelles accordent une extrême importance à l'électricité. C'est des véritables foires aux applications électriques, notamment à Paris, 1889, 1900, etc. Par exemple, vous avez ici... le palais de l'électricité de l'exposition universelle de 1900, qui est la plus grande qui ait jamais été organisée à Paris. On pense d'ailleurs c'est probablement la plus grande qui ait jamais été organisée dans un centre-ville. Et vous voyez, avec des fontaines illuminées électriquement. Donc tout un réenchantement du monde, comme si on réinventait finalement le spectacle du feu d'artifice baroque, tel qu'avaient pu le connaître les capitales européennes jusqu'au début du XIXe siècle. Ici, c'est un feu d'artifice sur la Tamise, donc à Londres. Mais finalement, ça se veut un peu le remplacement des feux d'artifice d'antan à l'ère électrique. L'électricité, du coup, elle va être aussi très vite associée au monde du loisir, et puis aussi à cette pratique naissance qui est celle du shopping. Le shopping moderne, et là, on va retrouver à nouveau l'Amérique. Ça, par exemple, c'est un restaurant dans un grand magasin dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, aux États-Unis. Ça va de pair avec une espèce d'idée d'opulence. Une opulence, une espèce de générosité de la lumière. Ne pas oublier que l'éclairage au gaz, on ne pouvait pas multiplier indéfiniment les sources de lumière. L'électricité va très vite, on va passer du bulbe unique du premier réseau Edison à une accumulation de lampes, et donc avec cette espèce d'idée luxueuse. Qu'on va retrouver ensuite, ça c'est une image du premier shopping mall fait par un architecte autrichien émigré aux États-Unis, Victor Grün, qui en fait va inventer le shopping mall. Et le shopping mall, c'est le mélange étrange de l'idée de un peu de loisir, de parc à thème presque, et de shopping. Et en fait, dès le départ, la lumière électrique joue un rôle tout à fait fondamental. Alors ça va jouer aussi un rôle dans quelque chose qu'on a un peu oublié aujourd'hui, ce qu'on appelait les cinémas atmosphériques aux États-Unis, qui sont qui sont des trucs inventés. Là encore, on retrouve des Autrichiens et des Allemands. Pourquoi ? Parce que c'est un peu l'héritage du Gesamtkunstwerk, l'œuvre d'art totale, avec même des espèces de connotations un peu héritées de Wagner, l'idée que quand vous allez au cinéma, ça doit être une expérience totale. Et on retrouve cette idée d'expérience. Ça doit être une expérience totale dans laquelle il ne s'agit pas uniquement de regarder une image animée sur un écran, mais le cadre est important. Il va y avoir des effets d'éclairage, la voûte va s'éclairer, et s'éteindre, etc., etc. Et en fait, donc un Autrichien invente ça, et c'est le théâtre d'Avalon à Chicago, qui est de 1929. Regardez ce cadre mauresque, un peu improbable, et vous avez une voûte qui s'éclaire, etc. Et en fait, à Paris, il y a un théâtre, il y a un cinéma, qui a été construit à Paris dans cette tradition, évidemment, c'est le Grand Rex. Le Grand Rex, c'est le seul cinéma atmosphérique parisien, et en fait, c'est une importation très directe des cinémas des États-Unis, dans lesquels l'électricité, vous savez qu'au Grand Rex, il y a toutes ces espèces de spectacles pour gamins, etc., dans lesquels l'électricité joue un rôle tout à fait déterminant. Alors donc, vous voyez finalement des enchantements, mais aussi de nouveaux plaisirs, de nouveaux enchantements, une nouvelle magie. Évidemment, je mentionne le cinéma. Ben, le cinéma, c'est aussi lié à l'électricité, finalement, tout ça. Les nouveaux palais de l'électricité, finalement, qui jouent un rôle tout à fait important dans cette histoire de réenchantement. En dernier, alors, avec finalement l'idée que l'électricité, c'est aussi un lieu de court-circuit magique. Par exemple, je parlais de la question de la distance avec le télégraphe. Le téléphone arrive aussi, pour vous fixer les idées, dans les années 1880. On ne sait pas au départ quoi en faire. Parce que quand on a, en général, on s'écrit encore, le téléphone est extrêmement cher. Et en général, pour la communication longue distance, on utilise le télégraphe, qui est en général plutôt pour de la communication institutionnelle, les cours de la bourse, les grandes nouvelles, etc. Du coup, on se demande si le téléphone, ça pourrait pas servir, par exemple, à retransmettre des concerts. Et là, vous avez, dans une exposition en 1881, toujours à Paris, on retransmet un opéra par téléphone, et les gens peuvent écouter comme ça. On est encore dans une période où on teste la technologie. Mais évidemment, ce qui paraît magique, c'est que ce qui est ailleurs devient présent, la voix lointaine devient présente, et je vais y revenir, s'emparer de la voix, c'est un truc qui fascine complètement les gens au tournant du 19e et du 20e. Il ne faut pas oublier que la photo, c'est déjà emparé au milieu du 19e de l'apparence, mais la voix, c'est autre chose. Je peux vous le dire, petite notation personnelle, quand j'ai perdu mes parents, je me souviens, je n'ai aucun enregistrement quasiment de la voix de ma mère. Et sauf vaguement à un endroit sur, évidemment, la misérable bande vidéo de mon mariage, où j'entends deux mots d'elle. Et en fait, il y a quelque chose dans le son de la voix, si vous voulez, qui est tout à fait saisissant. Et beaucoup, d'ailleurs, en parlant de récits d'anticipation, il y a beaucoup de gens à la fin du 19e qui sont complètement fascinés par ça, l'enregistrement de la voix. Si vous voulez. Donc le téléphone, ça participe finalement de cette idée de court-circuit entre le proche et le lointain, mais aussi de transmission de cette chose qui paraît par essence humaine, qui est la voix. Et comment une machine peut s'emparer de la voix humaine, ça paraît extrêmement magique à la fin du 19e siècle. Alors du coup, l'intérieur va aussi changer, en oscillant finalement entre deux tentations. La première, c'est celle de l'ouverture totale sur l'extérieur, comme si finalement la vie à l'intérieur devenait comme une espèce de spectacle, avant l'invention de la télévision, comme une espèce de spectacle à l'intention des gens de l'extérieur. Et par exemple, un architecte comme Miss van der Rohe va imaginer des maisons complètement vitrées, ça c'est la maison Tugendhat, récemment restaurée, en Europe de l'Est, vous voyez, avec ses parois très vitrées. Ça, c'est une première alternative qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Une des marques du luxe aujourd'hui, c'est encore, par exemple, pour le condominium, l'appartement à 40 millions de dollars à New York, au 200e étage d'une tour, des nouvelles tours qu'on construit, ou au 150e étage, la paroi entièrement vitrée, etc. Mais vous avez la deuxième chose, qu'on retrouve aussi aujourd'hui, qui est la maison qui se referme sur elle-même et s'ouvre différemment sur l'extérieur par la question de l'écran. Ça, c'est une image que j'adore, qui est l'image du téléphonoscope, Alors là, vous voyez une famille d'anglais de la middle class qui est en train de téléphonoscoper. C'est l'ancêtre de Skype, si vous voulez. Alors c'est une technologie qui n'a jamais existé. Mais le téléphonoscope, c'était au carrefour de l'idée finalement du téléphone, et puis qu'on allait se servir aussi, parce que très tôt, dès qu'on sait transmettre des sons, on se dit on pourrait peut-être transmettre des images. Et donc très tôt, en fait, au tournant fin 19e, on se dit finalement on pourrait imaginer, c'est l'ancêtre un peu, encore une fois, de la télé, si vous voulez, etc. Et là, vous avez donc une charmante famille anglaise qui discute avec la fille, son mari et les enfants. Ils sont en train de jouer dans un cadre colonial, et puis donc vous voyez, etc. Et vous voyez finalement l'intérieur se referme et s'ouvre différemment sur l'extérieur, un peu comme aujourd'hui quand vous fermez les rideaux de votre pièce pour éviter qu'il y ait du soleil sur l'écran, et qu'en fait vous allez à l'extérieur via l'écran. Avec d'ailleurs tout, en parlant de régime de sociabilité, vous avez une scène conjugale via un téléphonoscope, ça c'est Robida évidemment qui s'amuse à ça, dans son bouquin « La vie électrique », dans lequel le gars est prêt à lancer une chaise sur sa femme, qui évidemment est à distance. Donc on retrouve d'ailleurs ces espèces de bizarres courts-circuits entre le proche et le lointain, qui n'ont pas fini de troubler. Bon, vous êtes probablement la première génération, il n'y a plus de gens qui hurlent lorsqu'on parle de très loin. Moi, mes parents, par exemple, ou mes grands-parents, c'était terrible parce que plus on était loin, et quand on leur parlait au téléphone, plus ils se sentaient obligés de crier. Et c'est très typique, si vous voulez, de cette espèce de bizarre effet de désorientation lié au réseau moderne et à l'électricité. Alors finalement, continuité avec l'extérieur, transparence ou au contraire, opacité, et on ouvre ces bizarres fenêtres qu'on appelle les écrans, c'est des choses, et vous voyez qu'avant le numérique, la question se pose déjà un petit peu avec l'électricité. Alors j'en arrivais maintenant à la question urbaine, parce que je vous ai promis quand même de parler de la ville, avec cette espèce d'idée de bouleversement limité, mais en même temps de changement de rythme. Et d'ailleurs, c'est probablement une des analogies les plus profondes entre l'électricité et le numérique. Il y a des technologies, si vous voulez, qui transforme complètement les villes. La bagnole, qu'on le veuille ou non, a totalement transformé le cadre physique des villes dans de très nombreux cas. L'électricité, c'est beaucoup plus tangent. Pour les premières années, vous vous souvenez que quand je vous ai parlé d'Utopie, il y a très longtemps, l'année dernière, je vous avais présenté cet étrange projet d'un monsieur qui s'appelle Gillette, qui, oui, est l'inventeur des lames de rasoir qui porte son nom, etc. Gillette, qui a l'idée, finalement, de regrouper toute la population des États-Unis au sein d'une grande ville peuplée de tours de cristal, etc. Donc, vous voyez, c'est un projet tout à fait modeste, etc. Vous imaginez toute la population des États-Unis à la fin du 19e qui vit là-dedans. Et évidemment, comment ça marche, tout ça? C'est implanté près du Niagara, et en fait, il imagine une gigantesque centrale électrique qui va transformer la chute du Niagara en énergie électrique. Inutile de vous dire que les propositions urbaines de Gillette n'ont pas eu le succès qu'il attendait. Ça n'a pas eu un impact très durable sur les villes telles qu'on les connaît. De la même façon, dans les années 20, les années 30, il y a toute une série d'architectes, Sanelia et d'autres, qui imaginent des métropoles de l'ère de l'électricité avec des bâtiments qui ressemblent d'ailleurs à des centrales d'énergie. Ça a beau être une gare ferroviaire, ça ressemble à une centrale électrique. C'est pas par hasard, c'est une espèce de fantasme de la vie à l'heure de l'électricité. Bah, en fait, c'est pas ce qui s'est passé. L'électricité n'a pas changé profondément la structure physique des villes. Elle l'a un peu changé, mais ses effets sont pour la plupart indirects. Si on veut comprendre les effets indirects, bon, bah, par exemple, le gratte-ciel, il aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu l'électricité. Mais pour une raison très bête, c'est que sans électricité, il n'y aurait pas eu d'ascenseur et aussi d'éclairage, des plateaux qui permettaient au gratte-ciel d'être une forme urbaine, d'être un type urbain rentable. Et donc on se rend compte qu'effectivement, bon, on peut dire que le gratte-ciel est un enfant de l'électricité, c'est vrai, mais ça c'est le Reliance Building de Chicago, mais enfin, c'est pas un truc absolument aussi net que l'automobile où faut élargir les voies, on détruit des quartiers pour faire passer les voies rapides, etc. C'est pas le même genre de choses. Il y a eu d'autres effets auxquels on pense moins aujourd'hui, sauf si on a l'habitude, par exemple, des pays en développement ou de l'Amérique, qui est l'encombrement de l'espace public par les fils électriques. En France, on a beaucoup enterré les fils électriques, notamment dans le centre, mais au début du XXe siècle, Robida, toujours lui, se moque un peu de cette espèce de prolifération de poteaux électriques et de fils dans le ciel des villes, etc. Mais ça aussi, ça va finalement, après un moment, on atteint une espèce de paroxysme, et encore une fois, à part des pays comme les États-Unis, et puis quand même de larges secteurs du monde en développement, ça va disparaître dans nos pays. Autre chose qui disparaît, les centrales, au début, l'électricité n'était pas une énergie non polluante. C'était le contraire. C'est-à-dire, il faut vous imaginer, les centrales étaient en plein centre-ville, et on utilisait des machines à vapeur pour faire tourner des alternateurs, et du coup, ça faisait une pollution pas possible. Au Hall, par exemple, bien avant le forum, etc., il y avait une gigantesque centrale d'électricité souterraine. Et en fait, on va la, souvenez-vous, on va évacuer à partir d'un certain moment toutes les centrales électriques en banlieue. Pourquoi ? Parce qu'on a appris à transporter l'électricité sur longue distance, ce qui a eu quand même ce qui requiert un voltage plus élevé, et du coup le passage à l'alternatif. Je passe sur les détails techniques, mais c'est les deux transformations techniques. Du coup, ben, l'électricité dans le centre, eh ben, c'est quelque chose de relativement discret. C'est pas du tout une technologie aussi dramatiquement envahissante que d'autres. Ce qui est vrai. Par contre, l'électricité, ça va totalement transformer les rythmes de la vie urbaine. Avec des choses évidentes, par exemple, ça va commencer à entamer complètement la distinction entre la nuit et le jour. Et les villes, jusqu'à présent, malgré tout, l'éclairage restait quand même quelque chose de parcimonieux, même au gaz. Les villes vont commencer à vivre, finalement, 24 heures sur 24. Alors, révolution qui s'achève aujourd'hui avec le numérique. Vous savez, on dit souvent, le numérique a complètement transformé les cycles de la vie urbaine. On vit vraiment 24 heures sur 24. En fait, le démarrage de ça, vraiment, c'est l'électricité. Là, vous avez par exemple une scène de la vie nocturne. En fait, c'est un bordel new-yorkais. Les scènes de la vie nocturne à New York. Et en fait, les grandes villes vont se transformer. Et petit à petit, tous les rythmes, finalement, de la vie urbaine vont changer. Choses auxquelles vont être extrêmement sensibles. Autre chose, par exemple, l'apparition de la publicité lumineuse, qui, dans les grandes villes aussi, alors aujourd'hui, elle est en régression, mais qui est quelque chose de très important, qui transforme là aussi, qui donne une espèce de nervosité à la ville, et les artistes modernes vont s'y montrer très sensibles. Ici, c'est un collage, donc, un collage de Man Ray de 1931, sur cette espèce de symphonie, finalement, d'éclairage, de couleurs, etc. Du coup, ça va donner naissance à un genre de film qu'aujourd'hui, alors dans la version originelle de ce film, de ce cours, je projetais des extraits, mais ce qu'on appelle les symphonies urbaines, avec un certain nombre de films. Par exemple, est-ce qu'il y en a qui connaissent L'homme à la caméra, qui en ont entendu parler? Bon, alors, pour les Amurs, vous regardez ça quand même, parce que ça fait partie de la culture urbaine. C'est un film de Dziga Vertov, de 1929, qui est sur les rythmes de la vie urbaine. De la même façon, vous avez Walter Ruttmann qui compose un film qui s'appelle Berlin, la symphonie de la grande ville. Et en fait, le thème de la symphonie urbaine, alors c'est des films où on voit toujours en fait l'agitation urbaine, les machines, l'électricité, etc., avec une espèce d'idée que la ville, c'est comme une espèce de symphonie, avec des temps forts, des temps un petit peu plus faibles, etc., etc. Alors, tout ça pour dire que finalement, qu'est-ce que change l'électricité ? Eh ben, j'en reviens à mon idée d'expérience urbaine. Elle change les sensations, la lumière, etc., change de nature, et elle change le rapport au temps, le rapport à l'espace. Elle change très profondément, je dirais, la nature de l'expérience urbaine. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et finalement, une des choses que je pense qu'on ne comprend pas, par exemple, les problématiques de villes numériques, si on comprend pas qu'en fait, la première chose qui change dans la vie numérique, c'est pas la forme des villes, c'est l'expérience des villes. Mais l'expérience, c'est peut-être tout aussi fondamental. Parfois, en urbanisme, on a tendance à trop privilégier la forme des villes, en oubliant que l'expérience des villes est peut-être encore plus fondamentale que la forme. Ça, c'est Sonia Delaunay, c'est un tableau qui s'appelle « Prisme électrique » de 1913, On est en 1913, donc imaginez, c'est quand même il y a très longtemps. Et on voit que déjà cette espèce d'idée d'un changement de la perception, etc., est déjà à l'œuvre. Alors, ça va évidemment aussi changer l'attitude face à l'architecture, parce qu'on va commencer à illuminer l'architecture. Du coup, par exemple, le goût pour le retour à des volumes simples, etc., de l'architecture moderne, eh ben, ça a des liens quand même avec la question de l'éclairage électrique. Ça, c'est le département, c'est le department store story. C'est le grand magasin Karstadt à Berlin en 1929, etc. Et puis, alors ça, c'est un truc, c'est le livre que je n'écrirai jamais. Mais comme parmi les choses, j'ai écrit un livre sur l'ornement, mais parce que en fait, au départ, je voulais écrire un livre sur le maquillage. Ça va changer profondément le rapport au corps et le rapport à des choses même très intimes comme le maquillage. Au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, etc., quand on se maquillait, on s'en mettait plein le visage. Pourquoi? Alors, il y a plein de raisons. Il y a d'abord, souvent, on avait eu la petite vérole, donc on avait le visage grêlé. Donc, quand on mettait une espèce de masque de céruse blanche, ça permettait d'atténuer les défauts de la peau. Mais c'était pas seulement le problème. C'est que dans un éclairage faible et variable, etc., il y a une espèce de poésie intense d'un espèce de maquillage de théâtre. Et pendant longtemps, les maquillages de théâtre ont des côtés un peu exagérés, etc. Donc on se maquillait un peu comme des acteurs de théâtre. À partir du moment où vous avez la lumière électrique, eh ben, on peut plus se maquiller comme ça en se mettant des couches épaisses de crème et d'enduit blanc. On est obligé de changer complètement la stratégie par rapport au corps. Et vous vous rendez compte qu'en fait, les stratégies du corps, les façons d'être, etc., changent profondément avec les technologies. Un exemple que je donne aussi toujours aussi, c'est dans vos générations, notamment les plus jeunes, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous êtes capable de vous avachir complètement et de taper en même temps nerveusement sur un clavier. C'est le genre de truc que en fait promeut en général Starbucks. Du genre, je suis dans un fauteuil qui fait vintage, je suis comme ça, qui est assez typique de vos générations. Moi, j'appartiens à une génération où, pour taper nerveusement, on avait besoin d'être assis comme une secrétaire. Et vous rendez compte qu'en fait, le numérique, comme avant l'électricité, ça change les disciplines du corps. C'est qu'on ne se coiffe pas de la même façon, on ne s'habille pas de la même façon, etc. Pourquoi? Parce que la nature de la lumière, la nature des technologies en général, change aussi le rapport au corps. Est-ce que je suis clair jusqu'à présent? Ça va? Bien. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des tas de choses, comme ce que je vous avais dit, de toute façon, ça change le rapport au corps pour des raisons évidentes. Bon, comme je crois que je vous l'ai déjà dit, la plupart de vos jeunes cerveaux encore, qui n'ont pas encore commencé à massivement perdre du neurone, la carte mentale du pouce est beaucoup plus importante que dans mon cerveau à moi. Pourquoi? Parce que vous tapez, oui, votre pouce, parce que vous savez que vous avez une carte de votre corps dans le cerveau. Ça permet le pilotage du corps. Et bien, le pouce occupe une place beaucoup plus importante dans votre cerveau que dans le mien. À cause des text messages, des jeux sur manette, etc., etc. Le numérique, en fait, s'est traduit quand même par une espèce d'hypertrophie de l'usage du pouce. Et curieusement, d'ailleurs, ça revient à des usages presque simiesques. C'est ça qui est intéressant. Probablement, c'est plus proche de la façon dont les chimpanzés perçoivent leurs mains. Donc, c'est plutôt amusant. Bien, je pense, passe là-dessus. Et j'en viens maintenant quand même au lien entre l'électricité et la naissance de l'ère de l'information. Alors ça, c'est un point fondamental à comprendre. Parce que j'y reviendrai, mais très rapidement la prochaine fois. D'habitude, je le présentais en même temps que le numérique. En fait, les racines du numérique, c'est pas les années 80-90, l'Internet, les téléphones portables, tout ça. C'est même pas les années 1940 et la naissance des 1950 et la naissance des ordinateurs. C'est en fait les années 1890-1920 et la naissance, finalement, de l'ère de l'information. Alors, on peut croire que l'information, big data, tout ça, c'est récent, mais en fait, on est rentré dans l'ère de l'information à peu près au même moment où on est rentré dans l'ère électrique. On est rentré dans l'ère de l'information pour une raison simple, c'est que à la fin du 19e siècle, vous avez deux choses qui se produisent en lien l'une avec l'autre. Oui, peut-être avant ça, juste pour expliquer. Je vous explique. Vous avez deux choses qui se produisent l'un en relation avec l'autre. Un, les entreprises ont besoin de plus en plus d'informations pour fonctionner. Pourquoi ? Parce que leur taille augmente. Donc, par exemple, il faut des fichiers clients. Faut gérer. Ça a été très bien étudié, par exemple, dans le cas des chemins de fer. Une compagnie de chemins de fer dans les années 1850, c'est quelques dizaines de wagons et 4-5 locomotives. Une compagnie de chemins de fer à la fin du 19e siècle, c'est des milliers de wagons des centaines de locomotives. Du coup, faut savoir où ils sont, faut savoir gérer tout ça, etc. Ça devient beaucoup plus compliqué. Du coup, vous avez une explosion des quantités d'informations dont ont besoin les sociétés pour fonctionner. Et puis vous avez, de manière concomitante, les États qui commencent à se lancer dans des politiques sociales. Par exemple, assurer les gens. Par exemple, ficher les gens. En France, la carte d'identité, c'est ces années-là. Donc du coup, on a besoin aussi de quantités massives d'informations. Alors, ce basculement, on l'observe aussi en matière urbaine. Ça, vous pouvez vous demander ce que c'est. C'est en fait le poste de contrôle du premier réseau électrique Edison. Et vous regarderez le gaz qu'il a devant lui. En fait, c'est New York, ou un quartier de New York. Mais c'est un quartier de New York vu sous l'angle du réseau électrique. En fait, c'est l'ancêtre du control room, enfin du PC opérationnel qui fascine tant les gens de l'ère de la ville intelligente. C'est la ville, mais c'est plus la ville physique, c'est la ville comme système d'information. Si vous voulez. Et ça, ça se passe à ces années-là. Alors, je vous disais, les sociétés, une quantité massive d'informations commence à être produite. Du coup, c'est la naissance de l'emploi de bureau moderne. C'est plus, autrefois, on peut dire, la première révolution industrielle, vous avez un emploi de bureau et vous avez 100 gars dans l'atelier. Vous allez avoir de plus en plus de gens dans les bureaux, au point même où, à partir d'un certain moment, il y en aura parfois plus que dans les ateliers. Et ce qui est mutation, qui va profondément transformer le travail. Ça, c'est les bureaux d'une société qui existe toujours, qui s'appelle la Prudential Company, qui est une société d'assurance et d'investissement. Mais là, on est vers 1890-1900. Et vous voyez, tous ces gens, on les appelle des gratte-papiers d'ailleurs, ils produisent, ils stockent de l'information. Alors, ça va donner naissance au travail de bureau moderne. Vous noterez d'ailleurs, c'est pas complètement par hasard que c'est éclairé électriquement, etc. Là aussi, sans électricité, on n'aurait pas pu massifier le travail de bureau comme on va le faire au tournant du 19e et du 20e. Il y a des tas de choses qu'on croit complètement nouvelles. Par exemple, Amazon, une grande nouveauté, etc. Sauf que 1890, une firme comme Sears & Roebuck vend déjà des dizaines de milliers d'articles par correspondance aux Américains. Et en fait, Amazon, si ça a proliféré en Amérique, c'est que c'est enraciné dans plus d'un siècle d'achats par correspondance des Américains. La Redoute, c'est rien par rapport aux énormes sociétés de vente par correspondance américaines depuis la fin du 19e. Et Sears & Roebuck, ça veut dire qu'il faut avoir une quantité d'informations prodigieuses sur les clients, ce qu'ils achètent, où sont stockés les trucs, etc., etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, Amazon, c'est une nouvelle échelle permise par le numérique, mais c'est quelque chose qui ne fait que développer des choses qui se développent à ce moment-là. Alors, je parlais d'information, l'électricité va être cruciale en fait pour permettre de traiter l'information, parce que l'information, dès sa naissance sous sa forme moderne, le processing, comme on dit, le traitement de l'information, comment on la traite, c'est une question centrale. Et là, c'est avec émotion que je vous dévoile la tabulatrice, qui est en fait une des premières machines modernes à traiter de l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui est inventée en fait par un ingénieur encore d'origine autrichienne, Ulrich, à cause du recensement américain. La loi américaine oblige dès d'ailleurs la création des États-Unis à recenser la population tous les 10 ans. Le seul problème, c'est qu'autour des années 1880, on met 9 ans et demi pour traiter le recensement. Donc, grosse panique en se disant, si on met plus de 10 ans à traiter un recensement décennal, on va se faire couler rapidement. Donc, comment faire? Et donc, il y a un concours qui est lancé pour savoir comment, finalement, enregistrer l'information et la traiter. Et Allreef, en fait, c'est une machine qui, en fait, utilise des cartes perforées. Les cartes perforées d'ordinateur, au départ, c'est lié à l'expérience de la tabulatrice. Très bêtement, c'est un truc dans lequel les gens qui font le recensement perforent des cartes à des endroits en fonction des questions, hommes, femmes, etc. Et ensuite, la tabulatrice a des petites aiguilles et elle lit. S'il y a un trou, il y a une petite aiguille qui pénètre jusqu'à une coupelle de mercure, le courant s'établit et les petits compteurs, là, marquent plus un pour tel renseignement, etc. Alors, Allreef va fonder une Tabulating Machine Company qui, en 1924, va se rebaptiser International Business Machine et ça sera, en fait, IBM. Un des rivaux de Allreef, un gars qui s'appelle Honeywell et va créer en fait la Honeywell qui fusionnera avec un autre gars qui avait fait de la tabulatrice qui est Bull, il donnera Honeywell Bull et par exemple IBM produira des tabulatrices jusqu'à la guerre de Corée. En fait, c'est les grandes machines à traiter de l'information de la première moitié du XXe siècle, une carte perforée, etc. Alors, on va se servir de ça. Scientific American fait sa une au moment du recensement sur l'utilisation des tabulatrices, qui sont donc les premières machines à traiter de l'information. C'est d'ailleurs pour ça que les ordinateurs, la carte perforée, il n'y a pas d'autre logique simplement que le fait que c'était en usage pour les tabulatrices. Mais on aurait pu imaginer, alors ça s'inspire aussi des cartons perforés plus utilisés dans les métiers jacquard, donc dans les métiers de la soierie et du tissage au XVIIIe siècle, mais à part ces raisons historiques, on aurait pu imaginer d'autres façons de rentrer les programmes dans les ordinateurs et les données dans les premiers ordinateurs. Alors, le plus grand truc, the biggest bookkeeping job, c'est lorsqu'au moment du New Deal, et je vous avais parlé de ces histoires d'État, etc., au moment du New Deal, en pleine crise économique, Roosevelt va relancer l'économie et ça va passer notamment aussi par une politique sociale et la création de la sécurité sociale aux États-Unis. Vous savez qu'on discute aujourd'hui beaucoup sur la réforme du système de sécurité sociale américain, qui est la base du système des retraites américains. On le dit pas trop, mais le système par capitalisation ne fonctionne aux États-Unis parce que vous avez un système de base qui s'appelle la Social Security. Et si on le supprime, en fait, tout le système de capitalisation s'effondre. Et en fait, on va rentrer pendant plusieurs mois, les 23 millions d'Américains en âge de travailler vont être rentrés via des tabulatrices dans un gigantesque fichier. C'est le début aussi du fichage des populations. Fichage. Et puis, bon, je dirais, alors ne pas oublier que c'est la même période au cours de laquelle les machines à écrire se développent, les fichiers se développent, et puis tous ces instruments d'enregistrement. C'est pas un hasard si on est fasciné par l'enregistrement. Je parlais de la voix, le phonographe d'Edison voit le jour dans les mêmes années. Ça, c'est Edison avec un air presque de génie à la Napoléon ou comme Lord Byron. Et en fait, voilà le phonographe, qui est une machine, alors qui enregistre au départ sur des cylindres en cire. Plus tard viendront les disques pressés, etc., les disques gravés, puis ensuite reproduits au moyen du pressage. Mais en tout cas, quelque chose, cette question de l'enregistrement de l'information, elle est complètement au centre de la révolution électrique. Et en fait, c'est ça qui prépare l'avènement du numérique. Bien. Alors, je vous parlais de subjectivité. Ça a des liens avec les transformations, finalement, de la conception qu'ont les hommes et les femmes d'eux-mêmes. On va beaucoup écrire à la fin du 19e sur, finalement, c'est quoi l'homme et la femme modernes, qui sont-ils, etc. Avec, évidemment, comme je l'ai dit, beaucoup de liens avec cette question de la fiction. Par exemple, Jules Verne, ici, vous avez le Nautilus, qui est évidemment un sous-marin électrique, et Jules Verne est un grand turiféraire, apôtre de l'électricité à la fin du XIXe siècle. Mais encore une fois, ça touche tous les régimes de la vie. Du coup, Robida publie « La vie électrique », qui est ce recueil de caricatures plutôt amusantes sur la façon dont la vie est impactée par l'électricité. Alors, quand je disais ça impacte les individus. L'électricité s'accompagne, comme je l'ai dit, de l'information, mais aussi, finalement, d'un espèce de désir de savoir qui sont les individus. Et on dit souvent que le numérique, c'est lié à ça, une dimension individuelle. Cette dimension individuelle, elle date de l'électricité. Avec un paradoxe. Alors, bon, ça, c'était un autre exemple de Robida. Vous avez une dame, bien avant les MOOCs, vous avez une dame qui suit des cours par correspondance avec un professeur de mathématiques. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est pas... On croit que c'est avec nous de façon très récente. En fait, l'enseignement online, c'est un truc qui traverse tout le XXe siècle. Avec les premières radios universitaires, date des années 20, etc. L'Open University, les cours par correspondance, ça date des années 50-60, etc. Donc, en fait, le MOOCs, Massive Online, blabla, c'est en fait la dernière vague d'un truc auquel on s'intéresse depuis plus d'un siècle. Ça va jusqu'à présent ? Bien. Alors, première chose, on veut savoir qui sont les individus. En fait, on veut aller au-delà de la foule. L'une des grandes découvertes du XIXe siècle, souvenez-vous quand je vous parlais des gares, etc., c'est la foule. Mais en fait, à la fin du XIXe, on se dit ça suffit pas de regarder les foules. Il faut savoir qui sont les gens individuellement, quelles sont leurs caractéristiques physiques, comment on peut les identifier, comment, c'est quoi finalement leur, qu'est-ce qu'ils consomment. Enfin, vous voyez, des tas de questions. On croit qu'aujourd'hui, s'il n'y a qu'Amazon, Google, etc., qui cherchent à savoir ça, c'est beaucoup plus ancien. C'est beaucoup plus ancien. Et c'est aussi une des lignes de fond du rapport entre hier et aujourd'hui. Alors, c'est beaucoup plus ancien avec notamment, par exemple, vous avez tous dû entendre parler de Bertillon. Et le gars des empreintes anthropométriques. Bertillon, c'est quelqu'un qui essaye finalement d'identifier physiquement les individus. À travers un certain nombre de caractéristiques anthropologiques, la forme des oreilles, l'angle du nez, etc., etc., avec d'ailleurs des préoccupations sociales et raciales souvent peu recommandables. C'est aussi l'époque où se préparent les grandes convictions eugénistes et raciales qui seront mises en œuvre par des régimes peu sympathiques comme le Troisième Reich, etc., avec notamment, par exemple, cette idée de langue faciale des individus qui annonce leur niveau de dégénérescence, enfin, toutes ces idées-là, et puis, évidemment, avec ces idées de supériorité des races les unes sur les autres qui, malheureusement, vont traîner parfois jusqu'à aujourd'hui. Alors, Bertillon, il fait des mesures dans tous les sens, des fiches. Il met en fiche les individus, par exemple les différentes caractéristiques des oreilles, toutes ces genres de choses. C'est pas le seul. Tout le monde fait ça partout dans le monde. Alors Bertillon, ça va conduire aussi aux cartes d'identité. La carte d'identité en France, on va commencer d'ailleurs de façon peu sympathique par imposer le fichage des étrangers. Une fois qu'on a fini avec les étrangers, on n'avait jamais fiché les étrangers. On va tous les ficher. Ensuite, on va ficher les Romanichel. Et puis enfin, on va ficher tout le monde. Donc vous voyez, espèce de truc comme ça. Alors en Angleterre, vous avez un gars qui s'appelle Dalton. Alors Galton, pardon. Alors Galton, lui, il est franchement déplaisant. C'est un eugéniste, raciste, enfin, c'est un grand anthropologue, mais à la fois franchement déplaisant, et qui fait des fiches anthropométriques dans son laboratoire. Et Galton va rester célèbre, c'est un très grand statisticien également, mais il va rester célèbre aussi pour une autre chose, c'est le premier avocat des fingerprints. Avec d'ailleurs un truc, j'avais écrit un article sur qui s'appelait « Numérique digital, ordinateur, computer », sur le fait qu'il y a des tas de choses, si on veut vraiment les comprendre bien, il faut naviguer entre l'anglais et le français. Par exemple, en anglais, digit, c'est les chiffres. Du coup, culture numérique, c'est digital, digital culture. Par contre, les fingerprints, ça ne traduit pas cette idée de digit, et ni l'idée, en fait, d'empreinte digitale et de fichage des individus qui est inséparable de tout ça. Et du coup, il faut constamment naviguer entre l'anglais et le français. C'est pareil entre ordinateur et computer. Ça n'a pas tout à fait le même sens et c'est assez complémentaire de connaître les sens différents en anglais et en français. Bref. Alors, vers la même époque aussi, les Allemands, quant à eux, font des expériences de physiologie, par exemple sur la capacité pulmonaire des individus. On s'était jamais préoccupé de tout ce truc-là, de faire de la physiologie humaine à grande échelle, et on commence en fait vraiment à essayer de comprendre les caractéristiques des populations, comment on est déviant ou pas déviant par rapport aux moyennes nationales, enfin toutes ces idées-là viennent en force. C'est aussi des années très fortes de résistance à ça. Là, c'est un tableau que j'utilise souvent. Je vous l'ai déjà montré, celui-là, ou pas? Si, je crois que je vous l'avais montré, non? Ah, voilà. Bon, bah, c'est les années où, finalement, la subjectivité, ce qui est une question qu'on retrouve aujourd'hui avec Amazon et le Big Data, est-ce que le Big Data permet de me connaître vraiment? Ou est-ce que je suis irréductible à toute l'information qu'on accumule sur moi? Bah, c'est une question qui commence à se poser à la fin du 19e siècle. Et qui va pas nous quitter jusqu'à aujourd'hui. Les gens commencent à se poser cette question. Est-ce que ma subjectivité est réductible à cet ensemble de mesures, de chiffres, de fichages, d'empreintes digitales, de traces que je laisse dans des fichiers, etc. Alors c'est moins perfectionné, moins immédiatement croisable qu'aujourd'hui, mais c'est déjà une question qui est présente. Évidemment, on va la retrouver aujourd'hui démultipliée par les possibilités de reconnaissance vidéo, de reconnaissance faciale, etc. Mais c'est une question qui naît déjà à la fin du 19e siècle. Et évidemment, avec aussi cette idée, je vous parlais de la foule, les réseaux sociaux, comment des individus tous identifiables créent des foules imprévisibles. En fait, on croit que la question Facebook et les fake news sur Facebook, etc., c'est complètement neuf. C'est vrai que c'est neuf, d'un certain point de vue. Mais à la fin du 19e, vous avez beaucoup de gens qui ne s'expliquent pas comment des individus qu'on connaît de mieux en mieux à titre individuel ont des comportements si déconcertants en foule. Et d'ailleurs, le populisme actuel qui se sert des réseaux sociaux, eh ben, les régimes totalitaires du début du 20e siècle se servent des foules de la même façon, alors qu'on pourrait croire qu'on va connaître de mieux en mieux les gens, etc. Donc vous voyez, il y a toute une série de liens. Alors c'est pas pour suggérer que c'est la même chose, soyons clairs. C'est encore une fois Mark Twain a cette formule que j'adore, l'histoire ne se répète pas, elle rime. Mais il y a comme une espèce de rime entre le début du 20e siècle et aujourd'hui. Bon, alors là maintenant je vais vous parler quand même, enfin je vais vous expliquer pourquoi Sherlock Holmes joue du violon et se drogue. Qui est un des aspects fondamentaux de ce cours que vous aurez appris. Eh bien, en même temps, si vous voulez comprendre un peu la subjectivité d'une époque, je vous parlais de science-fiction, ce n'est pas inutile de regarder quelles sont les figures de fiction qui montent à peu près au même moment que les technologies se développent. La technologie a des liens, encore une fois, ces technologies-là, avec des figures de fiction. Alors, première figure, pourquoi? Parce que l'électricité, c'est quelque chose qui s'approche très très profondément de choses qu'on croit fondamentales, par exemple sur le psychisme. À la fin du XVIIIe siècle, Mesmer avait imaginé, par exemple, des baquets remplis de limaille avec l'idée un peu que des phénomènes un peu paraélectriques, ça allait soigner les gens, etc. L'idée de thérapie avec l'électricité commence à se développer. Alors ça se développe ensuite quand Galvani découvre que on peut faire contracter des muscles de grenouilles mortes avec de l'électricité. Du coup, ça fascine complètement les gens. Quelque chose qu'on pouvait croire si profondément unique et spécifique au vivant, le mouvement musculaire, est un truc qu'on peut stimuler au moyen de l'électricité. Et évidemment, vers 1815, il y a un roman qui va parler de ça, qui est Frankenstein, absolument, de Mary Shelley. Et évidemment, dans laquelle on va même encore plus loin, c'est des bouts de cadavres qu'on assemble, et l'électricité leur donne vie. Et donc, vous voyez, cette espèce de fantasme qui ne va pas cesser. Alors, un roman dont je vous recommande la lecture pour ceux qui aiment la littérature, c'est d'un romancier symboliste qui s'appelle Villiers de l'Isle-Adam, L'Ève future. C'est un truc, c'est Frankenstein, mais en un peu plus gai, dans les années 1880, et c'est un roman qui met en scène Edison, carrément. Et Edison, avec un lord anglais qui a perdu sa fiancée, qui est très très triste, et va voir Edison, et qui lui dit « s'il te plaît, construis-moi une femme artificielle ». Vous voyez le genre de truc, déjà. Et Edison lui construit une machine électrique, avec une voix dans laquelle on se sert du phonographe, Et du coup, elle a une la machine a une voix comparable à sa fiancée. Et le roman se termine par ce moment très très étrange où le gars parle à la machine et finit par réaliser qu'en fait la machine est peut-être dotée d'une vie autonome. C'est plus qu'une machine, elle est devenue vivante. OK ? Et en fait, du coup, naît ce qui va être une des grandes interrogations à partir de la fin du 19e, est-ce qu'il est possible de créer une vie artificielle ? Et en même temps que ça, naît cet être bizarre qu'on appelle le robot. Le robot, c'est quelque chose qui naît avec l'électricité. On le retrouvera dans les années 20 avec, évidemment, Métropolis de Fritz Lang, avec d'ailleurs encore des côtés très... c'est l'animation du robot, c'est très frankensteinien, avec des décharges électriques, etc. Et puis le robot, très vite on réalise qu'en fait, c'est une espèce de force mauvaise dans Métropolis, mais le robot est indéniablement vivant. Évidemment, d'ailleurs, ça se corrèle à toutes les angoisses des mecs blancs, etc., face aux femmes. Donc, en fait, souvent, les robots sont très souvent féminins pendant assez longtemps. C'est-à-dire, les robots intéressants et pervers sont féminins. Les robots masculins, en général, c'est des grosses brutes, pas très intelligentes. Bon, donc, vous voyez, le robot, premier héros qui va rester jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Deuxième héros, le détective. Pourquoi le détective, à votre avis ? Le détective, il commence déjà avec Edgar Poe, avec la fameuse nouvelle d'Edgar Poe sur le scarabée, mais il va se développer par la suite avec Sherlock Holmes, etc. Le détective, c'est un héros de l'âge de l'information. C'est grosso modo parce qu'une des angoisses qui monte, du coup, c'est le trop-plein d'informations, ou parfois l'information qui n'a aucun sens, qui ne fait pas message. Du coup, par exemple, le détective, c'est le gars qui, héroïquement, se confronte à tantôt un trop-plein d'informations, mais surtout une information qui n'a aucun sens. Par exemple, la pièce était fermée, personne n'a pu venir poignarder M. Dupont de l'extérieur, mais on a trouvé dans la pièce, malgré ça, une empreinte de pied de girafe et un mégot de cigarette russe. Ça, c'est très typique. Et le détective, sa tâche héroïque, ça va être d'expliquer pourquoi, en fait, on a pu tuer quelqu'un alors que la pièce était fermée, pourquoi il y avait une empreinte de pied de girafe et pourquoi il y avait un mégot de cigarette russe. Du coup, c'est, en fait, ce qui naît, c'est l'idée du déchiffrage. Le détective, c'est quelqu'un qui décode. Et d'ailleurs, la question du code, elle est présente déjà chez Edgar Poe, qui invente les premières nouvelles de détectives modernes, mais elle est aussi présente chez Sherlock Holmes. Par exemple, l'histoire des Dancing Men, en fait, c'est un décodage, mais plus globalement, Sherlock Holmes, c'est un grand décodeur. Sauf que, je ne sais pas si vous avez remarqué, une histoire de détective intéressante, il faut que le détective soit humain. Évidemment, l'ère du robot fait qu'on pourrait soupçonner un détective trop brillant d'être en fait une machine déguisée. Parce que qui peut mieux comprendre un code qu'une machine ? Vous me suivez toujours ? Du coup, la seule façon d'être sûr que le détective ne soit pas une machine, c'est de lui donner des défauts et des bizarreries. Et par exemple, Sherlock Holmes, ça serait... Et en plus, pour l'histoire, ça serait absolument ennuyeux si en fait Sherlock Holmes, c'était qu'un ordinateur. Donc en fait, il faut qu'il soit humain, il faut qu'il ait des erreurs, etc. Du coup, c'est normal que dès qu'il déprime, il se drogue et qu'il joue très mal du violon. Et toutes les bizarreries de Sherlock Holmes, en fait, inaugurent la série des bizarreries. Est-ce qu'il y en a qui ont encore lu Agatha Christie parmi vous ? Souvenez-vous, dans Agatha Christie, Hercule Poirot, par exemple, il se lisse sans fin la moustache, qui est assez clairement ridicule. Il déteste les maisons non chauffées, c'est moins ridicule, croyez-moi. Mais malgré tout, il y a une espèce d'obsession du chauffage central. C'est un personnage un petit peu burlesque sur les bords. Il faut que le détective reste humain. Et donc, et vous noterez que cette question, suis-je une machine, suis-je un être humain, suis-je un robot, elle est déjà présente dans ces années-là. Alors, dernier héros, souvent associé au détective, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu les histoires là de la dame qui écrit Harry Potter, Elle a fait une série de romans policiers plutôt pas mal, en anglais, sous un autre nom d'ailleurs, qui ressuscite la vieille formule, le détective et sa secrétaire. Parce que la secrétaire, dans une société quand même fortement sexiste, est en général pas un détective, mais elle aussi, elle lutte contre un tsunami d'informations. Elle tape à la machine, elle classe, elle envoie des factures, elle met en fiche, etc., avec un espèce d'héroïsme, un autre héroïsme qui est celui de la personne qui ne se laisse pas submerger par l'information. Et en fait, on voit bien, ça c'est une pub d'Olivetti, on voit très très bien cette espèce d'héroïsme de l'âge de la machine, où c'est comme finalement la machine à écrire, c'est aussi noble et grandiose qu'un train lancé à pleine vitesse. Simplement, c'est le train de l'information qu'il s'agit de piloter avec la machine à écrire. Avec évidemment la même question que pour le détective, et si la secrétaire était une machine? Ça, c'est un truc de science-fiction que j'adore toujours, parce que je trouve que c'est une espèce de condensé de beaucoup de fantasmes masculins, avec évidemment la femme machine des années 50. Alors, où est-ce que je veux en venir dans tout ça? Et il y a encore une fois des liens extrêmement étroits entre la technologie, et des technologies notamment comme l'électricité, la question urbaine et la question de la construction de la subjectivité. C'est que d'une certaine façon, nous sommes tous des détectives à l'ère de l'information, nous sommes tous aussi des secrétaires, et on pourrait dire que d'une certaine façon, qu'est-ce qu'a permis l'ordinateur? Nous sommes tous devenus notre propre secrétaire. Et qui n'a jamais ressenti un léger sentiment de vertige devant la quantité d'informations a priori qui pourrait être dans un bordel total sur son ordinateur? Et on se rend compte qu'en fait, ces questions de classement, etc., nous sommes tous devenus finalement partiellement des robots, partiellement des détectives, partiellement des secrétaires. Alors, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé aux premières années. La technologie, c'est ce qui nous permet finalement, en partie, ça nous permet à la fois de vivre en partie seul et quand même ensemble. C'est-à-dire que sans technologie, c'est un thème que je développe beaucoup en première année, sans technologie, on est obligé de vivre un peu comme les singes, c'est-à-dire qu'on vit dans une proximité physique permanente. On ne peut pas trop se quitter, on n'a par exemple pas de téléphone pour se dire rendez-vous à telle heure, etc. On n'a pas de moyen de vivre seul très longtemps, etc. Donc on a besoin d'être toujours en groupe. Et puis progressivement, ce que fait la technologie, c'est qu'elle désagrège un peu, elle rend le groupe plus lâche, elle permet à chacun de prendre ses distances, et elle recrée du lien à travers la technologie. Par exemple, si je voulais vous faire cours à 8h30 du matin, un vendredi matin pluvieux par temps de grève des transports, si on était tous des grands singes, je vous aurais pas quitté depuis hier, je vous aurais un peu épouillé pour vous motiver, parce que les grands singes, pour faire la paix, pour se motiver, etc., ils s'épouillent les uns les autres, c'est un rituel de friendship. Alors vous noterez aussi que le cours serait plus restreint, hein, parce que au-delà de 6-8 personnes, ça devient très fatigant d'épouiller des gens. On aurait dormi ensemble comme les grands singes, etc., et le lendemain, à une heure pas précisée, parce qu'on n'aurait pas de montre, j'aurais commencé le cours, qui aurait été très difficile à maintenir, parce qu'il y en a un d'entre vous qui serait venu m'épouiller pour témoigner sa satisfaction ou Dieu sait quoi. Et vous rendez compte, bon, en fait, le cours tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est une structure qui a remplacé cette espèce de proximité par des relations à distance. Vous savez qu'à 8h30, vous avez des montres, vous avez l'ordinateur, s'il n'y avait pas cours, vous recevriez un email, etc., etc. Alors c'est quelque chose qui balise toute l'histoire de la technologie. Par exemple, bon, là aussi pour les premières années, les autres ne peuvent pas s'en souvenir. J'explique assez longuement qu'une des conséquences de la révolution industrielle a été de permettre aux femmes de commencer à s'émanciper de la tutelle familiale. Pourquoi? Parce que l'usine, à la différence de l'atelier familial ou de la ferme, c'était le premier endroit où elles étaient payées pour le travail qu'elles effectuaient, et parfois loin des membres masculins de leur famille. Ça, c'est une ville qui s'appelle Lowell, dans le Massachusetts, qui était un peu le Manchester américain des années 1830-1840. Et un voyageur français qui visite là-bas est absolument stupéfait, parce que c'est plein de jeunes filles seules qui travaillent dans les usines. et qui le soir vivent en pension quand même, parce qu'on sait quand même un pays protestant, on rigole pas trop, mais avec cette espèce d'idée très révolutionnaire, même pour un Français des années 1830, que des femmes peuvent vivre seules, gagner un salaire par elles-mêmes, etc., etc. Donc la technologie nous rend plus autonomes. Du coup, cette espèce d'idée, finalement, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait inséparable de la technologie. Ce que nous sommes aujourd'hui est aussi en partie lié à la ville. Je vous parlais du robot. Métropolis est un film intéressant parce que Métropolis, il y en a qui ont vu Métropolis encore parmi vous, ça se fait encore de regarder Métropolis de Fritz Lang. Bah, regardez ce film, c'est un film très étonnant, c'est un film qui mélange des tas de thèmes, l'insurrection ouvrière, etc. Et grosso modo, le robot, à partir d'un certain moment, on va l'habiller de chair, un peu comme Terminator, et il va ressembler à la fille, la révolutionnaire, qui essaye d'entraîner les ouvriers à se révolter contre la dictature du patron de la ville. Métropolis, c'est une espèce de gigantesque ville-usine avec des prolétaires dans les sous-sols. C'est à garder un côté très contemporain et des gens qui vivent happily dans les étages à l'air libre. Et en fait, la fille des sous-sols veut entraîner les ouvriers à la révolte et le vilain robot, on va lui donner l'apparence de la fille pour subvertir le mouvement. Vous voyez, c'est genre gilet jaune subverti, etc. Mais en fait, ce qui est clair, c'est que ça soit l'héroïne ou son ersatz robot, c'est deux enfants de la ville. Du coup, ça c'est un thème, en fait, ça fait 20 ans à peu près, 22 ans que je travaille là-dessus. Cette idée, finalement, ce que nous sommes est inséparable des fictions qui nous animent et est inséparable de la question de la ville. J'avais écrit un livre autrefois sur le thème, finalement, et si la meilleure façon de penser les villes contemporaines était de s'imaginer que nous sommes devenus des cyborgs. Avec l'idée, finalement, qu'à chaque grande période urbaine, il y a une fiction qui lui correspond. La Renaissance invente cette idée que vous avez cet être bizarre qui est ni Dieu ni animal, qui s'appelle l'humain, qui est entre les deux. Et c'est le lieu naturel dans lequel cet être trouve à vivre, c'est la ville. Et donc une ville qu'on va organiser en fonction de sa perception du monde, etc. Et la ville renaissante est inséparable de cette fiction, donc, de l'humanisme renaissant. Donc ma proposition, c'était de dire finalement le cyborg ou le mixte de chair et de machine, c'est peut-être la façon dont on doit comprendre ce qu'est la ville contemporaine. Avec une autre chose qui m'a toujours intéressé chez les cyborgs, je vais y revenir dans un instant, c'est que, et on va faire la pause bientôt, je vous rassure, c'est que les cyborgs, c'est quelque chose qui aussi renvoie pas seulement au mythe de la puissance, mais aussi à l'idée, finalement, de la solidarité. C'est-à-dire que nous sommes, par exemple, bon, j'ai pas passé la nuit avec vous à vous épouiller, mais on est quand même solidaires d'une certaine façon. La technologie permet de réexprimer des solidarités. Un cyborg, par exemple, il est d'un côté plus autonome encore que les autres. Robocop, c'était censé être un personnage, mais il a besoin d'être réparé. Et en fait, si vous réfléchissez, toute votre armature technologique vous recrée du lien social en même temps qu'elle distend des liens traditionnels. Et donc, c'est ça qu'il faut penser. Du coup, je pensais à l'époque, et je pense toujours, que le cyborg est une des bonnes façons de comprendre la crise environnementale. C'est-à-dire, c'est pas de restaurer une nature qui nous serait extérieure, c'est de nous réparer en réparant notre environnement, qui est un environnement techno-naturel, irrémédiablement à la fois technique et naturelle. Et sur ces considérations profondes, je vous propose de faire la pause. On va faire ça un peu plus rapidement quand même, dans la mesure où on a déjà abordé beaucoup de thèmes. L'idée, c'était de quand même raisonner par rapport à des choses que vous connaissez aussi bien que moi sur la société numérique. Mais je vais essayer de revenir sur un certain nombre de points sur lesquels il y a des parallèles ou des questions qui se posent. Encore une fois, une des choses dont je suis assez persuadé sur le numérique, c'est qu'on ne le comprend pas si on ne comprend pas que c'est une transformation qui est au moins autant culturelle que technologique. Et je crois qu'à peu près tous les spécialistes aujourd'hui de la question, dont je m'honore de faire partie, mais plutôt dans le champ du urbanisme, architecture, sont d'accord là-dessus. Le numérique, c'est au moins autant une question sociale, politique, culturelle qu'une question purement technologique. Alors la première chose, c'est que pour revenir à ce qui constitue quand même l'un des fils conducteurs de cette séance, le numérique est en train de changer très profondément la nature de l'expérience urbaine. C'est un thème d'ailleurs auquel, bon, c'est assez marrant parce qu'on finit par se rendre compte, on ne se rend pas toujours compte qu'on a des obsessions, mais simplement au bout du troisième livre, on retrouve les mêmes thèmes, on se dit « Ah oui, ça doit être une de mes obsessions ». Donc, je dirais le numérique, bon, à travers notamment, bon, le fait que lorsque le numérique est apparu, il y a eu un peu comme à l'époque du télégraphe en 1850, on a entendu beaucoup de discours du genre « la ville traditionnelle, c'est fini, aujourd'hui, c'est plus l'espace qui compte, c'est le temps ». C'est un truc qu'on entend depuis l'époque du télégraphe. En fait, on se rend compte qu'on n'a jamais, que le prix du mètre carré dans les grandes villes n'a jamais été aussi élevé, et qu'en fait, on n'a jamais autant vécu dans ces espaces très particuliers qu'on appelle les villes. Vous connaissez tous le truc bateau. En 2050, 70% environ de la population mondiale vivra dans les villes. Donc en fait, la ville, c'est quand même, ça reste une réalité physique à peu près incontournable. Ça reste aussi d'ailleurs, je dirais, la source principale d'émissions de gaz à effet de serre. Je crois que c'est 3/4 ou quelque chose comme ça des émissions, c'est pas 4/5. Donc en fait, les villes, c'est un enjeu crucial. Ce qui s'est passé, c'est que la nature de l'expérience urbaine a changé. Quand je dis augmenter, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au départ, on a eu l'idée qu'on allait créer, en parallèle aux villes de briques et de béton, des villes faites finalement des villes numériques. Qu'elle est parallèle, par exemple, les gens à Amsterdam s'étaient lancés dans les années 90 dans une expérience qui s'appelait la ville digitale, dans laquelle ils essayaient de recréer finalement une espèce de ville parallèle, hein, qui serait une espèce de ville numérique. En fait, ce qui s'est passé, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est une hybridation très très profonde de l'espace physique avec les contenus numériques. Alors, hybridation, je vous parlerai de cartographie un peu la fois prochaine, etc. On y reviendra sur ces questions de cartographie, dont la cartographie urbaine porte la marque. Ici, ça, c'est, en fait, c'est les photos postées sur Flickr, c'est une représentation d'il y a quelques années, en fonction de là où elles ont été prises à Manhattan. Et en fonction aussi, comme on peut accéder à où habitent les gens, en fonction de, est-ce que c'est des résidents, est-ce que c'est des touristes, etc., etc. Le rouge, c'est les touristes, très grosso modo, et comme par hasard, en dessous de Midtown, entre Midtown et la pointe sud de Manhattan, c'est essentiellement quand même des locaux qui prennent des photos, etc. Mais en tout cas, c'est comme si finalement l'espace physique était intensifié, pénétré par le numérique. Or, il y a évidemment l'instrument clé dans tout ça, c'est le portable. Bon, finalement, la situation de réalité augmentée constamment. Vous êtes en train de vous promener dans les rues, vous êtes sur Uber, vous vérifiez une adresse, vous, etc. Vous êtes finalement dans cette espèce de bizarre monde hybridé qui est celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Comme je le dis d'ailleurs, en termes de comportement, je crois que j'en ai déjà parlé, moi ce qui me fascine toujours, c'est le fait qu'aujourd'hui on est capable de lire son téléphone sans tomber. Vous avez noté ça? Même sur du pavé irrégulier. Or, en fait, au début, exemple que je donne évidemment toujours, pardon pour les premières années qui l'ont déjà entendu. Au début, il y avait des applications spéciales qui mettaient en marche l'appareil photo pour que vous puissiez voir le sol pendant que vous tapotiez votre écran. Et en fait, aujourd'hui, plus personne n'en a besoin parce que vous êtes complètement habitué à la marche dans laquelle vous regardez un écran tout en faisant quand même vaguement attention au trottoir. Et vous vous rendez compte qu'en fait, la réalité augmentée, c'est aussi ça. C'est-à-dire, alors, il n'y a pas besoin de lunettes Google, vous êtes déjà dans cet univers-là, et probablement, alors, la prochaine génération, ça sera tous les wearables, les lunettes, les vêtements, etc., mais dès à présent, on vit dans cette espèce d'univers. Alors, réalité augmentée, c'est aussi tous ces écrans, même si, par exemple, ça a fini par capoter, parce que c'était une tentative de changer les bornes, les cabines téléphoniques, parce que les cabines téléphoniques sont moribondes partout dans le monde, en bornes de recharge des téléphones et d'accès à la réalité. En fait, il y a de moins en moins besoin de ces écrans-là dans les villes, à part pour des fonctions de publicité, etc., parce que vous embarquez les choses, etc. Donc finalement, une espèce de réalité hybridée dans laquelle, évidemment, une technologie clé aussi, c'est, moi je dis toujours, la grande révolution, c'est la géolocalisation. C'est quand même, on sait où vous êtes et du coup, on peut personnaliser toute une série de contenus, vous indiquer où vous êtes, etc., etc. Avec un rôle très fort, finalement, bon, c'est aussi ça. Je m'en étais servi comme couverture de la version anglaise de mon livre sur les smart cities. Vous voyez très bien le plan, l'expérience de la ville augmentée, etc., se mélanger. Alors, avec, encore une fois, le rôle de la science-fiction, ça c'est Minority Report, et c'est avant les écrans tactiles. Mais, pour moi, je pense que le truc fondamental, c'est vraiment de se dire que le numérique, c'est quelque chose qui met en jeu l'ensemble, finalement, de l'expérience du monde, d'expérience physique du monde. Alors, évidemment, ça a eu des conséquences. Ça a, évidemment, je dirais, d'une certaine façon, c'est venu parachever une évolution qui avait commencé avec l'électricité. Et peut-être, vous savez, ça c'est une des vieilles questions que pose la philosophie, à partir de quel moment un changement quantitatif devient un changement qualitatif? L'exemple classique, c'est vous refroidissez l'eau, c'est toujours de l'eau, et à partir du moment, hop, vous avez de la glace. Changement de phase. À partir de quel moment peut-on dire, probablement l'évolution dont je vous parle, on est face peut-être à quelque chose qui s'assimile à un changement de phase, mais le process lui-même, il est bien antérieur au déploiement du numérique. Parmi les choses qu'on voit aujourd'hui, ben, l'accélération des communications. Autre chose, évidemment, le fait de vivre 24 heures sur 24, etc., etc. Alors, c'est devenu pervers aujourd'hui, parce que, par exemple, on sait bien que le téléphone portable que vous donne la société généreusement et que vous utilisez parfois pour vos appels personnels, c'est aussi une façon de vous maintenir au bout de l'hameçon 24 heures sur 24. Etc., etc. Et c'est clair que les rythmes du travail sont en train de changer. Bah, prenez la révolution du télétravail. Avec d'ailleurs des disciplines, je suis très admiratif de ma fille, par exemple. Bon, c'est normal, hein, c'est ma princesse favorite. Mais ma fille, oui, comme tous les papas, c'est la plus belle et la plus forte. Mais ce que je trouve admirable, c'est quand elle télétravaille, des fois elle va à la campagne télétravailler, elle se met au boulot à 9h, elle s'arrête pour la pause de déjeuner, et juste la pause. Il y a toute une discipline. Moi, si on me faisait télétravailler, ça serait le bordel complet, hein. J'irai regarder un film à 10h, enfin bref, je crois que ça serait pas la discipline totale. Et on se rend compte qu'en fait, bon, là aussi, les disciplines personnelles changent complètement. Et le télétravail, par exemple, fonctionne avec de nouvelles façons de s'autodiscipliner, qui sont pas du tout les miennes, parce que bon, moi, j'ai toujours télétravaillé, parce qu'en recherche, c'est ce qu'on fait tout le temps, simplement que personne ne me contrôle. Donc, bien. Alors, changement de rythme de la ville, etc. Avec une autre chose assez intéressante, ça c'est BZ à Londres. Vous connaissez tous BZ, qui est en fait un des premiers habitats entre bas carbone, mais surtout susceptible de se déconnecter de la grille. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que l'âge de l'hyperconnexion a généré son contraire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des rêves de déconnexion. Fanny Lopez vous parlera de ça aussi lorsqu'elle viendra parler dans ce cours. En janvier, la ville hyper connectée, c'est aussi le rêve de la ville qui serait capable de se déconnecter. Et prenez vous-même. Je suis sûr que vous avez des moments de fierté quand vous avez réussi à ne pas regarder votre téléphone pendant plus d'une heure. Ce qui est une preuve de maturité et de reprise de contrôle de votre vie tout à fait remarquable. Qui n'a comme équivalent que dans ma génération, on est tous des fumeurs enragés à 20 ans, lorsqu'on était arrivé à tenir sans cigarette jusqu'à midi. Donc, cette espèce de sevrage des mauvaises habitudes. Mais je vois, par exemple, il y en a un tout à l'heure qui, je sais plus, là, était en train de consulter frénétiquement son téléphone, avec d'ailleurs, bon, du coup, je dirais, ce rêve de la déconnexion qui pose des problèmes, parce que jusqu'à quel point peut-on déconnecter des quartiers entriers de ville, des immeubles, etc. Mais en tout cas, ce qui veut dire aussi une chose, c'est que il n'y a pas d'imaginaire technologique chimiquement pur, il y a toujours une chose et souvent des tendances complètement contraires qui cohabitent. Il ne se passe pas de moi, encore une fois, ça me fait toujours rigoler, sans qu'il y ait un journaliste qui ne fasse pas un livre sur le thème « Ma vie sans Internet ». C'est un thème de bouquin maintenant assez classique. Bon, avec d'ailleurs, du coup, la déconnexion, l'autre truc, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, on n'a jamais autant parlé, retrouver le rapport au corps, la méditation, etc. Ça, c'est un espace de méditation dans un dortoir de MIT, chic et choc, c'est le dortoir de Stephen Hall à MIT. Et vous voyez, cette espèce de désir de se retrouver vraiment avec soi-même, et avec les autres, etc., etc. Ce qui est très particulier et très typique de notre époque. C'est pour ça aussi que je pense que les prophètes qui disent « tout va passer en ligne », ben, ce n'est pas complètement vrai. Prenez même l'enseignement, c'est clair qu'une partie de l'enseignement va passer en ligne. Mais avoir le postillon du professeur dans la figure, ça restera une expérience physique irremplaçable, etc., etc. Et je dirais, on est dans une espèce d'hybride complexe, finalement. Encore une fois, on est toujours dans cette espèce d'hybridation très profonde entre physique et numérique. Et je pense que c'est ça qu'il faut peut-être comprendre, c'est qu'encore une fois, et c'est on va pas parler que de ça la semaine prochaine, on va parler beaucoup des modes de régulation de la ville intelligente, etc. Mais la ville intelligente, peut-être que ce qu'il faudrait dire plus tôt, c'est une ville dans laquelle l'expérience urbaine est en train de se transformer. Et c'est ça, et c'est fondamental à comprendre, parce que si on comprend pas ça, on prête attention à ce qui est peut-être pas le plus essentiel. Un deuxième aspect pour moi inséparable de ça, c'est lorsque l'expérience se transforme, ça veut dire qu'en général, nous nous transformons. C'est-à-dire nous ne sommes pas les mêmes que il y a un siècle ou deux siècles. C'est là ce en quoi je diffère probablement des phénoménologues qui pensent qu'il y a une espèce d'essence stable de l'humain. Je pense que peut-être que quand même, bon, on a toujours deux yeux et deux oreilles, mais dans le meilleur des cas. Mais nous nous modifions aussi très profondément. Un bel exemple de ça, soit dit en passant, c'est même le corps. Prenez pourquoi, par exemple, les règles de la séduction font que les femmes changent de morphologie dans les sociétés. Dans les sociétés occidentales, les femmes ont changé de morphologie assez régulièrement, liée à des disciplines du corps, liées aux effets de mode, etc., etc. Bon, la minceur est quelque chose de valorisé relativement récemment dans les sociétés. Les sociétés dans lesquelles on n'avait pas à bouffer, c'était plutôt d'être gros et gras, qui paraissait sexy. Hein. Donc là aussi, c'est des choses quand même tout à fait dépendantes. Donc du coup, nous sommes en train de changer. Et c'est vrai que c'est un des thèmes, je vous parlais du cyborg, bah, c'est un des thèmes constants sur lesquels j'ai réfléchi ces dernières décennies, c'est au moins ces deux dernières décennies, c'est en quoi avons-nous changé ? Alors une façon de penser ça, c'est de penser, encore une fois, on vit dans un monde quand même très très particulier. Pour donner un autre exemple, on vit dans un monde dans lequel la frontière, autrefois, dans les cultures traditionnelles, le calcul et la matière, c'était pas la même chose. Aujourd'hui, vous avez des tas de gens qui parlent de material computation. Il y avait un article d'ailleurs dans Le Monde, il y a deux jours, sur un Allemand que je connais, qui est un tenant de ça, qui est un gars qui travaille à Stuttgart. Et en fait, l'idée finalement que dans un monde piloté par l'information, il n'y a pas franchement de différence notable entre le matériel et le computationnel. Comme par hasard, c'est dans ce cadre-là qu'on a découvert l'hélice, la double hélice de l'ADN, avec l'idée que la vie même, c'était un code. Vous noterez d'ailleurs la grande différence au XIXe siècle, à l'époque de Frankenstein, la vie est une décharge électrique. Aujourd'hui, la vie est un code. Et vous vous rendez compte qu'en fait, les interprétations de ce qu'est le monde changent, etc. Donc ça, c'est un peu ces idées, finalement, contre le matériel et le computationnel, c'est continu. L'autre idée qui, pour moi, est très importante, notamment pour des gens qui travaillent sur des choses sensibles, l'architecture, la ville, etc., c'est que le numérique a entraîné une réforme profonde des sens. Ça commence par l'audition, la vue, des tas de choses comme ça, le toucher même, et ainsi de suite. Un exemple, bon, bah, l'audition, vous avez l'habitude d'un son chimiquement pur, et tellement pur que, du coup, d'ailleurs, vous avez la nostalgie des craquements du vinyle. Donc, du coup, vous rachetez des vinyles. Mais c'est vraiment par effet. Parce que le son naturel, pour vous, il est chimiquement pur. Il n'y a pas de craquement, etc. Ce qui aurait paru absolument surréaliste à un gars du 19e siècle. Jusque, justement, au phonographe, qui permet d'enregistrer pour la première fois la musique. Là aussi, il y a la voix humaine, mais il y a la musique. Et ben, jusqu'au phonographe, si vous vouliez entendre de la musique, vous entendiez en même temps les raclements de l'archet du violon, le grincement du parquet, le bruit éventuellement du vent à l'extérieur des édifices, des tas de choses, les raclements de gorge, enfin ce que vous entendez dans une salle de concert, c'était le mode normal d'audition. Il ne vous venait pas à l'idée qu'on puisse entendre de la musique. Alors, le phonographe est contemporain des premiers désirs, parce que dès que vous avez le phonographe, vous avez le gars qui enregistre, qui se dit, vous dit « chut, baissez, parce qu'on entend ça, etc. » Et vous vous rendez compte qu'en fait, un processus s'amorce dans lequel vous allez complètement réformer l'audition pour devenir, pour entendre différemment la musique. Un autre exemple, par exemple, il vous paraît absolument normal quand vous prenez une photo aujourd'hui que tous les plans soient nets, du premier à l'arrière-plan. C'est le multifocus typique de tous vos appareils, Huawei, Samsung, etc. Et du coup, d'ailleurs, effet de nostalgie sur le iPhone et tous les appareils un peu sophistiqués, vous pouvez recréer du flou à l'arrière-plan pour faire des portraits comme à l'époque de grand-maman. Mais ce n'est pas la mode naturelle de vision. Alors, ça va de pair avec un autre truc, c'est qu'il vous paraît naturel qu'on puisse zoomer sur les images. Et d'ailleurs, ce qu'on vient admirer quand on va voir la Joconde au Louvre, c'est la seule version de la Joconde où on ne peut pas zoomer jusqu'au pixel. Et d'ailleurs, elle est protégée, surprotégée, etc. Et en fait, vous rendez compte que le régime de la vision a changé, etc. Alors les parfums, on est en train de plus en plus aussi, les parfums aujourd'hui, on les conçoit partiellement par ordinateur, tout le monde sensoriel est en train d'être réformé. Une autre chose aussi, alors ça c'est pour les architectes, avec les ordinateurs, vous générez très facilement des effets de texture. Du coup, d'ailleurs, tout le côté ornemental contemporain de l'architecture est lié à cette perception nouvelle. Vous avez une perception beaucoup plus aiguë des effets de texture qu'auparavant. En fait, il faut voir que la technologie, c'est quelque chose qui oriente la compréhension du monde. Pour vous donner un autre exemple bizarre, les électriciens au XVIIIe siècle, les gens qui font des expériences d'électricité, ils viennent souvent du monde des tissus. Vous savez pourquoi ? Parce que quand vous frottiez de la soie, etc., ça attire les petits bouts de papier. Du coup, c'était souvent des gars qui venaient du monde des tissus, etc., qui se penchaient sur les... Sur... Et vous vous rendez compte qu'il y a des liens entre la technologie et la perception. De la même façon, Joule, l'équivalent... On vous a tous raconté l'histoire de Joule, j'espère, l'équivalent entre la chaleur et le travail. Joule, en fait, il vient d'une dynastie de brasseurs de bière. Et du coup, c'est un gars qui a une perception des températures absolument... hors norme avec un physicien normal. Et vous vous rendez compte qu'en fait, finalement, la technologie, la perception du monde, ça a des liens et que le numérique est en train de nous transformer complètement la perception du monde dans lequel on vit. Alors ça, un autre truc très saisissant, c'est qu'avec le numérique, vous pouvez partager. Ça, c'était une de mes étudiantes en PhD à Harvard, en doctorat, puisque je faisais un truc sur le thème « La ville numérique, c'est aussi une ville où on peut partager les sensations ». Parce que c'est ça aussi qui est nouveau. C'est-à-dire que traditionnellement, vous aviez le récit du genre « Oui, j'ai mangé un très très bon fried chicken wing with gochujang », je ne sais pas très bien ce que c'est, « Korean spicy paste ». Bon, mais vous n'aviez pas les moyens totalement de communiquer le truc. Aujourd'hui, vous prenez votre plat en photo, vous le postez immédiatement sur un réseau social, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est en train de changer là aussi le monde sensoriel dans lequel vous vivez, le fait de transmettre ça. De la même façon que dans ma génération, par exemple, moi j'ai commencé avec des parents qui appelaient les grands-parents une fois par semaine. C'était le régime normal du téléphone. C'était l'appel toutes les semaines aux grands-parents. Aujourd'hui, vous êtes passé petit à petit au téléphone quand ça vous plaît, quoi. Et moi aussi. Et vous vous rendez compte que finalement, ça change la perception du monde. Alors, derrière ça, évidemment, une des premières hypothèses que j'avais faites, et qui je pense est partiellement vraie, c'est que c'est une nouvelle phase du devenir cyborg de l'humanité. C'est-à-dire, nous devenons de plus en plus mixés avec la technologie, au point d'ailleurs, ça c'est une image que je montre souvent, je m'en suis servi dans mon livre sur les smart cities anglais, le gars sur la droite, en fait, c'est des timbres qui servent au monitoring des signes vitaux. Mais le truc de droite, il a comme particularité d'être destiné à être collé sur les organes à l'intérieur du corps. Donc en fait, on vous met ça à l'intérieur du corps pour suivre, etc. Vous vous rendez compte, bon, que le monitoring va de plus en plus loin. On est capable aussi, pour la première fois, ça, cette mauvaise photo, c'est la première GI amputée à la guerre d'Irak, sur laquelle on a branché directement sur les nerfs un un membre artificiel. Ça, c'était de la SF type Robocop il y a encore, il y a encore à peu près 15 ans. Aujourd'hui, on expérimente de plus en plus. On a commencé, en fait, on avait commencé à brancher du silicium sur les nerfs avec les implants dans les oreilles, les implants cochléaires. C'est la première fois qu'on avait fait ça. Mais aujourd'hui, c'est pas standard. On ne sait pas comment ça va vieillir, ces trucs-là, mais ça se fait de plus en plus. Et ça, c'est le truc que je montre toujours aux premières années, c'est le truc le plus gore. C'est une pauvre fille qui avait sa calotte crânienne qui poussait plus. Du coup, ce qui évidemment posait des gros problèmes de développement du cerveau et qui essayait de mourir, du coup, on lui a enlevé la calotte crânienne et on l'a remplacée par un truc 3D printed. Et il est clair qu'on va rentrer de plus en plus, pour les gens qui en auront les moyens, bien entendu, dans un univers de choses imprimées en 3D. On va pouvoir faire pousser de plus en plus de tissus, etc. Donc on devient, pour ceux qui ont les moyens, là aussi, c'est quand même clair que les trois quarts d'humanité les auront pas, mais on devient réparable, un peu comme des machines, des bicyclettes, etc., etc. Donc, cette hypothèse du cyborg, avec d'ailleurs une question lancinante, est-ce que nous sommes en train de devenir des produits ? Ah, ça, c'est un tableau, là aussi, que je montre aux premières années d'une une artiste australienne, Valeria Piccini. C'est assez drôle parce que c'est une des deux images censurées, parce que j'avais écrit un livre en 2010, il y a presque 10 ans maintenant, sur culture numérique et architecture, et il a été traduit en farsi, donc par les Iraniens. Il y a deux images qui ont été... Enfin non, il y en a trois qui ont été censurées. Il y a évidemment la couverture, parce que c'était la rampe hélicoïdale du nouveau musée de Tel Aviv, donc... dans les presses iraniennes, ça faisait pas. Et puis il y a cette image-là, parce qu'évidemment, en Iran, ils poussent pas quand même le vertige jusqu'à publier ce type de photos dans les bouquins. Bon, en fait, la question que pose la fille, c'est quoi le produit ? Est-ce que c'est la souris transgénique à qui on a fait pousser une oreille dans le dos ? Ou est-ce que c'est le mannequin ? Qui a été sélectionné un peu comme les abricots, etc., pour correspondre à des types de beauté, etc. Mais vous avez tous été d'une certaine façon sélectionnés. Entre les vaccins, les machins, les trucs, vous avez tous été élevés comme des boulets de batterie, simplement pas pour le même usage. D'être des poulets de batterie à qui on a dit « vous êtes unique, vous êtes irremplaçable, devenez vous-même », etc. Moi aussi, je suis un poulet de batterie, d'une certaine façon. On a tous survécu déjà. Bon, grosso modo, dans cette salle, au XVIIe siècle, les 4/5 seraient morts avant l'âge de 5 ans. En fait, si vous êtes encore en vie, c'est grâce déjà aux vaccins, à des tas de choses comme ça, aux antibiotiques, parce que quand vous avez eu une infection, etc., eh ben, et vous, du coup, vous êtes toujours là à m'écouter. Et donc, vous avez été maintenu en vie grâce à toute une série de technologies un peu de type cyborg, où on ne sait plus très bien le kilo de chair, dans quelle mesure il est technologique ou naturel, il est techno-naturel. Donc, c'est une hypothèse pour comprendre un peu les urbains aujourd'hui, et que j'ai beaucoup développé. Alors, le cyborg, un de ses intérêts, c'est qu'au-delà du produit... Bon, alors, c'est une des figures. C'est une figure qui, là aussi, est assez ancienne. Ça, c'est un essai, tiens, de General Electric. Il y en a qui ont vu tous les Robocop, parce qu'il y a un Robocop le plus minable de la série, où il y a des espèces de monstres comme ça. C'est le plus mauvais de la série, hein, avant le retour du gore absolu aujourd'hui, avec le gars dans les poumons, dans la cage en plastique. Qu'est-ce que je veux dire à travers ça ? Le cyborg, c'est une forme d'aliénation. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait que vous soyez si pétri de technologie, etc., d'une certaine façon, vous êtes devenu, sans le vouloir, des esclaves de la technologie. C'est elle qui vous a maintenu en vie. Et puis, si, à la différence, les hommes... Alors, bien sûr, vous êtes plus autonome que les hommes des cavernes, mais si on vous met dans l'état d'un homme des cavernes avec une peau... avec une vague peau d'animal sur le dos, etc., et qu'on vous lâche dans la nature, vous allez durer moins longtemps que le Néandertal ou le Cro-Magnon standard, parce que, en fait, vous êtes complètement démunis par rapport à beaucoup de choses. Donc, c'est une figure. Donc, vous êtes finalement très dépendant de la technologie, et du coup, la technologie vous tient. Même avant Amazon. Mais en même temps, ce qui est curieux, c'est que le cyborg, très tôt, c'est aussi une figure un peu d'émancipation, avec dans l'idée que la technologie, ça permet de dépasser l'aliénation. Ça, en fait, c'est une expérience de hippie. C'est des cyborgs version hippie. Les hippies ont beaucoup travaillé aussi sur ces questions un peu de cyborgologie, etc. D'où finalement c'est... Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que le numérique, d'une certaine façon, c'est ça. D'un côté, vous êtes aliéné totalement. Vous avez acheté Rihanna sur le catalogue iTunes. Bon, c'est franchement la honte, hein. Mais bon, vous assumez. Mais enfin, vous êtes complètement un produit de... Vous êtes devenu un produit total des grandes industries commerciales d'aujourd'hui, etc. D'un autre côté, iTunes vous permet de faire... de combiner une playlist où il y a Rihanna et ensuite Schubert. Et alors là, ah, oh, miracle! Parce qu'il y a Schubert à côté de Rihanna, it's so yourself. You are so unique. Etc. Et en fait, la technologie, c'est à la fois un truc qui vous rabote complètement et vous ramène au rang de finalement d'entités combinables, etc. Et c'est ce que fait Amazon. Il stocke toutes vos traces et ensuite il est capable, si vous avez acheté tel truc, vous allez acheter, si vous avez acheté du Taylor Swift, vous allez probablement acheter du Rihanna et probablement pas du Schubert. Mais à la fois, ça vous permet de combiner Schubert et Rihanna. Et vous voyez, c'est finalement cette espèce de mélange bizarre. Le numérique, c'est ce qui nous transforme finalement en objet, en sujet passif de la grande consommation, et c'est en même temps ce qui contribue aujourd'hui à notre affirmation en tant qu'individu irréductible aux autres. Et il y a les deux. C'est pas complètement nouveau, encore une fois, c'était déjà vrai avant. Le cyborg, ça renvoie aussi à l'idée de force. Vous savez, Terminator, Schwarzenegger, tout ça, en général, le cyborg, il est vachement balèze. En fait, ce qui m'avait intéressé dans le cyborg, au départ, c'était justement, en Terminator, le fait qu'il n'avait pas... C'était bien avant les téléphones et les plans. C'est le fait que Terminator n'avait pas besoin de plan de Los Angeles pour se diriger. Que j'avais trouvé très intriguant. Alors, dans mon petit livre sur la ville, territoire des cyborgs, j'avais écrit un chapitre sur la fin des cartes et des modes d'emploi. En disant, finalement... Ça aussi, c'est un truc que vous n'avez pas vécu. C'est que quand vous achetez un ordinateur, aujourd'hui, vous n'attendez pas à recevoir un manuel de 400 pages avec le mode d'emploi de l'ordinateur. Bon, ben, dans les années 80, fin des années 80, c'était standard. Vous receviez, en général, il y avait même plusieurs manuels. Il y avait le très gros manuel de référence, il y avait le petit manuel pour le for the dumps, dans lequel il y avait marqué « appuyer sur le bouton démarrer », etc., etc., il y avait toutes sortes de manuels. Bon, bref, le cyborg, c'est à la fois un être plein de force, de vigueur, etc., et puis c'est à la fois quelque chose qui a constamment besoin d'être réparé. Constamment. Et je dirais d'ailleurs, vous êtes en meilleure santé que vos ancêtres, mais un gars qui avait survécu jusqu'à l'âge de 5 ans en survivant à toute une série de maladies malignes, de furoncles, de choses dégoûtantes, etc., qui avait déjà perdu un nombre significatif de dents à l'âge de 20 ans, etc., malgré tout, était assez résistant par rapport à vous. Alors, question qu'on a vu d'ailleurs, le cyborg, la question que ça pose, jusqu'à quel point êtes-vous une machine? Jusqu'à quel point, ça c'est un autre film, vous avez dû noter, j'aime bien tous les films trash, c'était The Matrix. Jusqu'à quel point êtes-vous du code? La question de Sherlock Holmes, finalement, elle est toujours avec nous. Avec aussi, bon, ce nouveau fantasme qui est, et si on pouvait, ces idées de post-humain dans lesquelles, et si on pouvait un jour se télécharger entièrement dans les machines? Si vous avez jamais lu un truc délirant, lisez Kurzweil, qui, pour la petite histoire, est quand même un des conseillers d'Alphabet. Personnage tout à fait étonnant, qui avait annoncé la singularité pour 2025, maintenant recule un peu, mais pense quand même que nous allons devenir finalement indissociables des machines, progressivement, grâce au progrès de l'un de l'autre. Alors, évidemment, Kurzweil, c'est de la science-fiction, mais il est quand même clair. L'intelligence artificielle, telle qu'on nous l'annonce dans les films hollywoodiens, c'est de la science-fiction. C'est-à-dire, pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle est peu généraliste, elle est extrêmement algorithm-driven, etc. Mais quand même, il va falloir apprendre à vivre de façon différente, et finalement, cette question « sommes-nous des machines ?», elle rebondit aujourd'hui, parce que nous vivons avec des machines qui, quand même, sont incontestablement plus intelligentes que celle du passé. Comme je le dis souvent, même Microsoft Word est devenu meilleur en grammaire que vous. Alors ça, c'est une première possibilité. Autre possibilité, ça, c'est la probabilité de présence d'un électron autour de l'atome d'hydrogène. Mais vous savez qu'en mécanique quantique, on ne sait jamais très bien où s'arrête une chose et où commence une autre, etc. C'est finalement, et si au lieu d'être des cyborgs, c'est-à-dire des créatures machines, on était en fait des choses dans lesquelles la notion d'intérieur et d'extérieur est très floue, dans lesquelles on vit en partie en dehors de notre corps, dans lesquelles finalement on ressemble plus à des espèces de champs de force, etc., ou des réseaux, que des choses traditionnelles. Hypothèse là aussi qu'on commence un peu, au début du XXe siècle, Mies van der Rohe, l'architecte, est fasciné par exemple par les rayons X. Et l'idée finalement que le corps, qui était longtemps cette chose opaque, etc., on peut le traverser, il est transparent, etc. Alors depuis, on en est venu, bon je vais passer là-dessus, c'était des dissertations sur les rapports entre l'ornement et ça, bon, en résumé quand même, bon, j'ai écrit un livre sur l'ornement dans l'un des arguments, et de dire que l'ornement contemporain fonctionne sur le mode de la non-séparation absolue entre l'objet architectural et vous. Par exemple, c'est une façade qui ressemble à un mur braille. Ça ressemble à du braille. C'est le musée de Jung de San Francisco par des architectes qui s'appellent Herzog et de Meuron. Il y a un côté très tactile. C'est-à-dire ça vous donne envie de toucher. Sauf que vous ne touchez pas, mais c'est comme si le fait de regarder, vous étiez en train de toucher le bâtiment. Qui est un effet architectural très commun aujourd'hui. Qui renvoie à quoi? À une autre hypothèse sur l'évolution de la subjectivité, c'est que vous êtes de moins en moins à l'intérieur de votre corps, uniquement, et vous êtes de plus en plus ici et là et ailleurs, etc. Comme si vous étiez répandu un petit peu partout. Ce qui vous arrive quand vous êtes sur Internet, où êtes-vous quand vous êtes sur Internet? Vous n'êtes ni vraiment dans votre tête, ni ailleurs, vous êtes dans les deux, etc. Alors, qui est encore renforcé par le fait qu'aujourd'hui, la notion même d'intérieur explose. Le cerveau n'est pas une chose unique et concentrée. C'est un espèce de réseau de nœuds neuronaux, de zones qui correspondent à des fonctions différentes, etc., comme si le cerveau lui-même était une sorte d'extérieur. Il n'y a pas d'endroit dans lequel vous êtes vraiment à l'intérieur de vous-même. C'est constamment un ensemble de réseaux emboîtés. Vous n'êtes finalement pas contenu à l'intérieur de votre corps, parce que votre corps lui-même a de l'extériorité dedans. C'est comme si vous étiez dans une série infinie de réseaux qui s'emboîtent les uns dans les autres. Vous êtes à l'intérieur de vous-même. Votre cerveau, c'est un genre de réseau. Vous savez qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup la métaphore de l'Internet pour comprendre le cerveau. C'est-à-dire, en fait, ça fonctionne avec des modules qui causent les uns avec les autres. Et ça permet de comprendre des tas de pathologies mentales quand les modules sont plus coordonnés, etc. Avec parfois aussi des trucs qui se relocalisent. Vous avez une lésion cérébrale. Eh ben, le nœud qui code le langage se déplace. La zone qui code le langage se déplace. Donc, finalement, espèce de bizarre extérieur à l'intérieur de vous-même. Ensuite, vous êtes vous-même dans des réseaux type Internet, dans des réseaux sociaux, etc. Dans quelle mesure êtes-vous séparable de tout ça? Est-ce qu'il existe cette chose unique qui serait vous-même, indépendamment de tout le reste? Eh ben, c'est une question dont on peut discuter aujourd'hui. Bon, on se passe là-dessus. Et évidemment, les réseaux sociaux, c'est une bonne image de ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas penser ce que vous êtes dans un réseau social uniquement comme vous êtes vous-même complètement fermé sur vous-même. Vous êtes en fait un point de vue sur le réseau social. Vous n'êtes pas forcément quelque chose de séparable complètement, etc. Ne serait-ce que parce qu'une partie de votre identité sur le réseau social, c'est les connexions que vous entretenez. Et vous vous rendez compte que ce que vous êtes, c'est en partie les connexions que vous avez. Donc vous voyez, et que vous ne pouvez pas être vous tout seul sur le réseau. Alors là, alors les artistes jouent depuis très longtemps là-dessus. C'est un artiste australien, Stellark, qui explore depuis des années l'idée qu'est-ce que c'est que vivre avec un avatar. Vous avez tous vu Avatar aussi? Bon, ben, Avatar, c'est un film qui tourne aussi autour de cette idée-là, qui est très courante aujourd'hui en philosophie, etc., qui est finalement, et si, en fait, vivre à l'intérieur de son corps était partiellement une fiction? Qui est un peu, d'ailleurs, pour ceux qui jouent du jeu vidéo, vous prenez une grosse baffe dans un jeu vidéo, c'est presque physiquement douloureux. Mais, en fait, c'est pas vous qui avez pris la grosse baffe sur l'écran. Et en fait, vous rendez compte que vous avez une espèce de capacité à projeter vos affects, etc., bien au-delà de votre corps. Alors, en même temps, Et c'est peut-être pour moi ça ce qui me fascine le plus. Oui, j'aime beaucoup cette photo. Je n'ai jamais pu la publier parce que je n'ai jamais pu trouver l'auteur. Mais pourquoi j'aime beaucoup cette photo? Parce que ça renvoie à cette espèce de bizarre truc qui s'est noué autour du tatouage, même si le tatouage commence enfin un peu à refluer. Mais le tatouage s'est développé un peu comme l'espèce d'antidote. C'est-à-dire, nous sommes constamment en train de nous diluer dans ce monde de réseaux, de communication, etc., et constamment en train d'essayer quand même de réaffirmer que nous sommes uniques. Pour revenir à Facebook, ça donne ces espèces de bizarres statements dans lesquels vous expliquez que vous êtes à tel moment, à tel endroit, et le ciel est d'une couleur si particulière, et c'est formidable, etc., dans lesquels vous vous mettez en scène en tant qu'individu unique dans ce lieu, etc. Vous postez des trucs si fondamentaux du genre « ce matin, je me suis levé et j'ai pris un thé vert ». Et vous avez 95 likes parce que vous avez entretenu votre réseau et vous passez votre temps à réaffirmer votre identité. Alors je vais y revenir sur la ville intelligente. Je crois qu'on ne comprend pas la ville intelligente si on ne comprend pas qu'elle s'adresse pour ces bizarres individus qui à la fois sont capables de se diluer complètement dans leur environnement et par moments de se regrouper. Le tatouage, c'est une marque aujourd'hui de « je suis ici, mon corps m'appartient, mon corps n'est pas poreux, la preuve, je peux y inscrire des traces de ce qui compte dans ma vie ». Et les tatouages, en général, correspondent à des histoires de vie, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, il y a cette espèce de bizarre mélange des deux. Alors ce que j'aime aussi beaucoup, évidemment, dans l'image, bon, la fille, elle est assez sexy, évidemment, mais ça, c'est politically very incorrect, mais c'est surtout l'espèce d'idée de force et de vulnérabilité qui est aussi très typique, je dirais, des aspirations urbaines d'aujourd'hui. Alors finalement, c'est quoi tout ça? C'est d'une certaine façon, vous vous diluez, vous vous répandez, etc. Vous devenez le réseau. Et puis d'une autre façon, vous vous regroupez, des fois vous êtes le petit point bleu qui est à cet endroit précis, en cet instant précis, et rien d'autre. Et vous passez constamment de ça à ça, et c'est ça finalement être un urbain aujourd'hui. C'est d'être capable de se dilater quasiment aux limites de la ville et de se recontracter pour n'être plus que le petit point bleu qui cherche finalement la prochaine intersection de rue, etc. Alors, c'était ça un peu dont je voulais parler parce que, encore une fois, je pense que la ville intelligente, avant de la considérer uniquement comme une méthode de management rationnel des infrastructures, etc., il faut comprendre qu'elle s'enracine dans une transformation de l'expérience urbaine qui est liée à l'ensemble des technologies numériques. Et elle s'enracine, encore une fois, dans une transformation de nous-mêmes qui est extrêmement profonde. Nous ne sommes plus un homme ou une femme du 17e, on l'aurait beaucoup surpris avec ses histoires de réseau, ses histoires de... etc. Parce qu'il était clair qu'il y avait une intériorité et qu'elle n'était pas... Et d'ailleurs, à l'intérieur de l'intériorité, il y avait encore une intériorité supplémentaire, c'est-à-dire à l'époque de Descartes, par exemple, on se disait « mais où est le siège de l'âme à l'intérieur du cerveau ?» Donc il y avait vraiment cette espèce d'idée qu'on pouvait rentrer en soi-même. Aujourd'hui, rentrer en soi-même, ça ne peut être que provisoire parce que vous êtes constamment sollicité pour ressortir de vous-même, pour, encore une fois, vous redisperser dans toute cette maille de réseaux divers qui constituent en fait votre personnalité. Vous n'êtes pas vous-même, je dirais, à l'intérieur de vous-même uniquement, vous êtes vous-même dans un constant aller-retour avec ce désir d'un intérieur et cette extériorité de chaque instant. Et la ville, elle reflète finalement ça. C'est une ville qui, à tout instant, vous sollicite pour vous exploser, en quelque sorte. Mais où sont mes amis? Où y a-t-il une station-service? Est-ce que je vais poster sur le réseau social ce que je viens de manger ou cette expérience? Mais aussi, où suis-je à ce moment précis dans mon corps physique? Et il y a toujours les deux. Et c'est une expérience urbaine. Alors, je pense que ça vous paraît même pas révolutionnaire, parce que quelque part, c'est ce que vous vivez tous les jours avec vos téléphones, etc. Mais c'est profondément différent de ce qu'ont vécu les générations antérieures. C'est profondément les générations antérieures. Par exemple, si on voulait savoir où on était dans la ville, soit on connaissait très très bien la ville, soit sinon on dépliait un plan et péniblement on essayait d'inférer où on se trouvait, etc. Et en même temps, ben, on était beaucoup moins en communication avec l'ensemble de la ville qu'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui.